Bonjour la France métropolitaine, bonjour les Outre-mer, bonjour la francophonie, bonjour le monde. C'est moi qui vous accueille aujourd'hui et non Salman, sort du cadre. Parce que nous avons décidé de tout changer dans cette émission, changer de studio et de nom ça suffisait pas, ajouter une chronique non plus ça suffisait pas. Vous êtes en effet en présence d'un épisode concept de dans le podcast de Monte le son. Et moi Daz, en ma qualité de lead VP, executive senior co-host, je vais vous expliquer de quoi il retourne.
Ah.
À l'époque, dans le tempo, on recevait un invité, ou deux, parfois trois, et on discutait pendant 2 heures. Mais ça, c'est comme NTM, Solar et IAM, c'est de l'antiquité. Parce que maintenant, dans le podcast de Monte-le-Son, on reçoit un invité, ou deux, parfois trois, et on discutera pendant 2 heures, mais ça n'aura rien à voir. Parce que cette fois-ci, il y a un twist. Ce sont les invités qu'on va vous présenter, qui viennent avec des sujets qui leur tiennent à cœur, et on en discute ensemble dans la joie et la cordialité qui caractérisent cette émission légendaire. C'est donc un nouveau type d'épisode que nous lançons aujourd'hui. Et pour éviter qu'il ne dure 4 heures, Salman, tel le Olivier Faure
oui.
du Parti Socialiste.
Je sais pas si c'est le plus flatteur comme comparaison, mais vas-y.
Face à un 8e gouvernement macronard, sera littéralement le maître des horloges. C'est comme ça qu'on appelle
Olivier
Faure.
Ah merde, je sais ce rôle.
Voilà, le maître des horloges. Donc Salman s'engage à tenir le timing.
Oui, je suis Olivier Faure.
Voilà. Le podcast de Monte-le-Son, épisode 102. C'est parti. Tu sais que c'est pas facile de faire des intros de Salman.
C'est vrai.
Ouais, 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 c'est pas simple.
Écoute.
Parce que là, tu pourras plus faire dans le tempo.
Non, c'est vrai.
Ouais. Alors, écoute, je sais pas comment tu vas faire. Vas-y.
Non, maintenant, je fais Monte le son. C'est le podcast des passionnés de musique. Bienvenue. Ah. Daz, effectivement, tu as tout de suite mis les termes. Tu as posé les termes.
Ouais.
C'est un épisode un peu particulier.
Eh oui, on change tout, du sol au plafond.
Exactement, alors effectivement déjà dans le tempo devient Monte le son, le podcast, nouveau décor effectivement.
Monte le son, 2 points, le podcast
oui,
ou
absolument.
Le podcast de Monte le son.
Pour l'instant on a mis sur les réseaux, on a mis Monte le son, mais en fait c'est sous-entendu Monte le son, le podcast. Puis Monte le son est un média également. C'est compliqué.
Il faut le rappeler.
Et les gens vont s'habituer. Mais par contre, effectivement, tu as raison, on inaugure un peu une nouvelle forme, un nouveau type d'épisode, avec des invités de qualité, en plus, puisque nous sommes avec Lolita Mang et avec David Bollard.
Bonjour.
Ça va ?
Hello.
Ça va ? Merci pour l'accueil.
Bah avec grand plaisir. Bon, Daz,
ouais.
Effectivement, comme tu le disais, on n'a pas travaillé. Enfin si, on a travaillé, mais autant que nos invités,
ouais.
Puisqu'on s'est dit, et si on parlait un peu de sujets apportés par nos propres invités, on en débat autour de cette table, etc. Mm-hmm. Et notamment, il y a un truc moi qui me tient à cœur, c'est que bah la musique, c'est un truc en mouvement, ça évolue sans cesse, évidemment. Et en fait, ces 5-10 dernières années, je suis persuadé qu'il y a déjà plein de trucs qui ont émergé, qu'on peut noter lorsqu'on suit vraiment l'actualité musicale. Et il se trouve que Lolita et David sont journalistes. Ils s'intéressent
et
à la musique.
Et pas dans n'importe quel domaine.
Ah oui, absolument. Et dans la musique, effectivement. Et donc, vous suivez un peu l'actualité au quotidien, quoi. Et je suis sûr que vous avez un regard hyper affûté et qu'il y a plein de trucs qui, ces 5-10 dernières années, vous ont marqué.
Ça, c'est sûr.
Et on va en discuter, Daz.
Ok. Ça m'a l'air d'être un programme très
chouette.
Ouais.
Est-ce que vous voulez quand même rapidement vous présenter, Lolita ou David, Lolita, pour qui tu bosses
Je suis Lolita Mang, je m'occupe de la rubrique culture chez Vogue France depuis 2 ans maintenant, avec, c'est vrai, une spécialisation musique très marquée. Et plus loin encore, je dirais spécialisation pop.
Ouais.
Voilà.
Et oui, parce que tu traites aussi de cinéma, de mode chez Vogue, etc.
Exactement, surtout cinéma, la mode est une rubrique à part entière. Ouais. Donc à la culture, tu auras le cinéma, l'art contemporain, la littérature. Enfin, j'ai des semaines très chargées. Voilà.
Et tu fais des collections quand même avec la mode, justement. Ça peut
tu
être un prisme.
Tu peux avoir des
musique,
sujets croisés, ouais. bien sûr. Bah, déjà, tu as des expositions sur la mode, ouais. De temps à autre. En ce moment, je pense à Rick Owens au Palais Galliera, à Paris. Et puis, évidemment, y a un sujet auquel je pensais pour aujourd'hui, dont on ne va peut-être pas parler, mais je lance la balle, si jamais quelqu'un veut l'attraper, qui est le médiévalisme, qui est en fait une tendance qu'aujourd'hui on observe à la fois dans la mode, à la fois dans la musique, à la fois dans l'art contemporain.
Ouais.
Donc oui, en effet, il y a des parallèles et des ponts qui se font entre toutes les disciplines.
Bon, sacré ouais. balle, ça, le médiévalisme.
Mais on en parlera peut-être.
J'ai envie d'attraper
cette balle. Sujets dont on parlera ouais. certainement dans cet épisode. Si on a le temps, on espère, parce qu'on a plein de sujets de côté.
Mmh.
On va voir ce qu'on peut faire. Et je finis, Lolita, quand même, j'indique que tu as aussi bossé auparavant avec Libération, Trax, Tsugi, Society,
des beaux
magazines. Ouais, de beaux médias. Et puis aussi, tu officies en tant que DJ sous le nom Sailor Lolita.
Tout ouais. à fait, oui. Pas de date annoncée pour l'instant.
Elle voulait faire sa promo pour la prochaine tournée et tout.
C'est un message pour les bookers, ça.
Bon, David, toi.
Oui, moi, je suis journaliste indépendant.
David Bola, je précise d'ailleurs.
Bola, oui, c'est ça. Je travaille en tant que journaliste indépendant, du coup, de temps en temps, j'ai des médias avec qui je bosse régulièrement. De base, j'ai beaucoup travaillé avec Radio Nova, où j'ai été animateur un moment, je faisais un podcast aussi, et puis maintenant, j'y vais de temps en temps pour aller voir Monsieur David Blot du Nova Club. Sinon, je travaille pas mal avec un média qui s'appelle Grunt, qui est plutôt un média rap, voilà, qui met des freestyles et qui organise un festival dans pas si longtemps que ça. Enfin, je crois que ce sera passé quand l'émission sortira.
Et ça a été hyper bien.
Et c'était super. C'était super. Voilà, j'étais au stand de merch. J'espère que vous êtes venus me voir. Voilà.
Et DJ set, t'as fait un super DJ set.
J'ai fait un super. J'ai d'être ça. Je peux le dire déjà. J'ai d'être ça, mais parce que j'ai d'être toujours ça. Voilà. Pareil, bookez-moi aussi. Hein. Regarde caméra. Et sinon, avec qui je travaille, Musique Journal de Étienne Menu aussi, que vous avez reçu.
Qu'on voilà.
Donc j'écris de temps en temps pour eux et Arte Trax aussi depuis quelques temps. Voilà.
Et puis on te retrouve dans le prochain Audimat.
Dans le prochain Audimat, exactement, pour parler de Jersey Club. Tout à fait. Tout
ah,
à
ça
fait.
Tombe bien, ça.
Et oui, et oui. Bah, c'est un des sujets que j'ai préparé pour aujourd'hui. Je veux pas spoiler, mais voilà.
Vous avez les sujets le apparaissent sur vidéo. Votre écran.
Et puis j'ajoute, tu penses
faire...
non, pauvre François. Okay, non, on va tu vas découvrir les sujets au fur et à mesure.
Mais oui, des fleurons,
tu vois, exactement, mais oui, tu vois, créer un peu de tension.
Bien sûr.
Ouais, et j'ajoute quand même pour faire ta promo complète, il y a la newsletter Waf Waf aussi.
Oh là là, à chaque fois que quelqu'un le dit, ça me remplit de bonheur parce que le nom, je commence à me dire c'est vraiment pas un nom de ouf, mais oui, Waf Waf,
la newsletter. C'est pour les niches.
Exactement, la newsletter de musique de niche. Exactement. Et voilà, c'est ça. Donc tous les 10 jours à peu près j'invite quelqu'un à écrire un article sur le sujet de niche de son choix, le dernier étant encore une DJ qui a écrit sur le rôle des DJ qui back des rappeurs et des rappeuses, voilà, et d'essayer de dire que c'est pas un rôle aussi simple qu'on peut penser, parce qu'on peut se dire c'est juste quelqu'un qui appuie des boutons, mais elle explique très bien que c'est aussi une affaire de complicité, qu'en réalité c'est une chef d'orchestre, elle est pas DJ, voilà.
C'est pas mal ça.
Daz, on a des gens compétents autour de la table. Lolita, David. Cool. Les deux font un travail de qualité.
Et au moins deux personnes compétentes autour de la table.
Exactement, ouais, peut-être cool. Que nous on l'est moins.
Ah bah carrément.
Et oui, parce que donc on rappelle le principe. En gros, on a demandé à chacun, y compris nous d'ailleurs, y compris toi Daz, y compris moi, sur ces 5-10 dernières années, qu'est-ce qui nous a marqué. Alors que ce soit des évolutions d'ailleurs esthétiques, artistiques,
business.
Ou effectivement plus sociales, économiques, etc. Et voilà, les grands changements qu'on a observés. Et ce que je vous propose, c'est que direct, on rentre un peu dans le vif du sujet. Est-ce que d'ailleurs, David, tu veux commencer?
T'as,
parce que t'as déjà évoqué d'ailleurs un sujet que je trouve d'ailleurs intéressant et qui pourrait nous amener d'ailleurs à peut-être étendre encore.
Ouais, tout à fait. Tout à fait. Le Jersey Club, je voulais en parler parce que c'est, déjà, c'est aussi parce que je l'ai beaucoup étudié récemment, mais parce que je trouve que c'est vraiment une musique qui a marqué les années 2020, qu'on a commencé à entendre beaucoup en France autour de 2022. Et via la scène rap de base. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout une musique qui vient de la scène rap, c'est une musique qui est plutôt électronique de base, qui vient d'une ville dans New Jersey qui s'appelle Newark, et qui a une histoire sociale qui est vraiment passionnante, et que finalement, en fait, quand on l'aborde comme ça, juste en écoutant les morceaux de Jersey Club, que ça soit des Kershak ou des Sto comme ça, on n'imagine pas tout ce qui s'est joué en fait finalement à Newark pour que la musique arrive jusque
là. Parce que ce que tu nous dis, donc là, tu parles d'un mouvement américain, et en fait, parce que pour ceux qui connaissent un peu la Jersey, en fait, c'est pas du tout récent, mais il y a eu une espèce de réappropriation, c'est ça, de...
Ouais.
Est-ce qu'on peut définir?
Ouais.
Oui. Donc pour le définir, en fait, le point de départ, moi, que je donnerais de la Jersey, du son qu'on connaît, il se joue surtout autour d'un pattern de une rythmique, en gros, okay, qui apparaît en 1993 avec un morceau qui s'appelle Dick Control, okay, de Tap. TA2P et Dick Control écrit avec des K, qui est pas un morceau connu du tout, qui est pas un morceau qui a été produit dans le New Jersey non plus. En fait, l'histoire de ce morceau, c'est un DJ qui s'appelle DJ Technics, qui est un mec de Baltimore, qui participe à une compétition de DJing, et en gros, sa platine, elle est défectueuse pendant la compétition, et quand ça tourne, ça crée cette espèce de rythmique, le tout, 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 comme ça.
Bon, on s'écoute un petit extrait quand même, Tap, Dick Control.
Allez,
c'est parti.
Take control. You gotta have take control. You gotta have take control.
control. You gotta have to take control. You gotta have to take control.
Et là, tu le faisais en même temps. Ouais. Ce rythme-là, c'est ça qui est caractéristique.
Ouais, c'est ça. En fait, donc, comme je disais, c'est un morceau qui est produit plutôt à Baltimore, enfin à Baltimore même. Et ça devient pas, il y a pas une scène qui se crée avant le début des années 2000. En fait, ce qui se passe entre les deux, c'est qu'il y a un vendeur de mixtape qui est aussi DJ, qui s'appelle DJ Tamil, qui lui est un mec de Newark. Et en gros, il est DJ depuis qu'il a 7 ans. Il mixait des disques de house pour les soirées de ses parents. Et en même temps, il avait un petit business où il faisait des mixtapes et il vendait des mixtapes de house à la sauvette dans la rue ou parfois à l'arrière de sa bagnole. Et en gros, il se rend compte que les morceaux de Baltimore, ils commencent à être très très populaires à Newark. À Baltimore, il y a un genre très spécifique qui s'appelle le Baltimore Club. Et le morceau qu'on a écouté, la tape d'E Control, c'est du Baltimore Club. Mmh. Et du coup, il se dit, ah, ce serait intéressant que j'en rachète d'autres et que je crée des mixtapes à partir de ça parce que le son, il est populaire. Et du coup, il va à Baltimore parce qu'il trouve dans les notes d'un vinyle, il trouve l'adresse d'un magasin qui s'appelle Music Liberated. Et il parle avec le vendeur du magasin. Le mec, il s'avère qu'il est très connecté avec toute la scène de Baltimore. Et du coup, DJ Tamil, il commence à avoir accès à tous ces vinyles-là, tous ces disques-là. Il les vend à Newark, etc. Et ce son, il se popularise. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le vendeur de ce magasin, il meurt au début des années 2000. Et du coup, DJ Tamil, il se dit, bah, je vais plus avoir en fait accès à ce robinet à musique que je vendais à Newark. Donc, il va falloir que j'en produise moi-même. Et dans un second temps, il va se dire, ce serait intéressant de développer un son qui est propre à Newark. Et donc, ils vont exploiter, en fait, cette rythmique-là très spécifique. Qui n'était pas si utilisé que ça dans la musique de Baltimore pour construire une scène. Et ils vont commencer à se dire, OK, si on fait que des morceaux comme ça, on va commencer à pouvoir parler de notre music club à nous, qui n'est pas de la Baltimore Club, mais qui est, à cette époque-là, ils appellent ça du Brick City Club, parce que c'est le surnom de la ville de Newark. Et au début, ce qui est drôle, c'est qu'ils font pas des musiques qui sont destinées, qui sont pas nécessairement, j'allais dire tout public, mais en réalité, si, c'est justement des musiques tout public. En fait, ils font des musiques pour les enfants, de base.
Ah ouais? Ouais. Parce que ça naît quand même dans un contexte plutôt de culture du club, dans les discothèques, etc., avec des DJ.
Ouais.
Mais ça s'adresse aussi aux enfants.
De base, c'est pour les enfants. Parce que, en fait, pour les ados, ils ont déjà le rap, qui fonctionne bien. Okay. Donc, ils jouent du rap. Pour les plus vieux, ils ont déjà la house, qui fonctionne très bien. Mais pour les enfants, ils ont pas une musique spécifique qui est pour eux. Et eux, ils jouent pas dans des clubs. Ils jouent dans des soirées de ville, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, tu vois, genre des soirées en plein air qui vont être organisées peut-être par la municipalité ou peut-être des soirées privées
des
ou des trucs comme ça.
Des
block parties, des trucs comme ça. Mais du coup, les gens, ils viennent avec leur môme. Et donc, c'est bien dans un DJ set d'avoir de la house, du rap, mais aussi une musique vraiment pour les mômes. Okay. Et donc là, tu peux retrouver aussi sur Internet les premiers morceaux qui sont produits, là c'est autour de 2002, c'est des remixes de génériques de musique pour enfants avec ce pattern de Jersey Club.
Okay. Voilà.
Donc par exemple là, un mec qui s'appelle Black Mike, ouais. Mike M-I-C comme un micro, et tu peux mettre Elmo Song, et c'est un remix de
Elmo de Sesame Street. Hein.
Exactement, voilà.
Ah ben bah, on s'écoute ça, vas-y, Sesame Street, Elmo Song. J'adore, parce que tu sais, sur SoundCloud, tu peux laisser des commentaires. Et alors, là, sur le truc, il y a un mec qui met classique, etc. C'est absolument incroyable, les commentaires. Ah, c'est improbable, je savais pas qu'il y avait comme ça un public d'enfants à la base.
Alors, comment un truc qui naît à Baltimore, dans le Maryland, qui se retrouve à Newark, dans le New Jersey, en 2002, arrive en France en 2020.
Il y a quelques années, ce lien, effectivement.
Alors, ça va arriver en France plus tôt que ça, en réalité. Okay. Ça arrive, il y a une première vague au début des années, à fin des années 2000, début des années 2010, en fait. Ça commence parce qu'il y a des promoteurs de musique Jersey Club, enfin de musique club de la côte Est même, pour être plus large, parce qu'ils partagent aussi du Jersey Club, mais aussi de la musique club de Philadelphie, enfin des choses comme ça, quoi. Et ils se fabriquent des mailing lists qu'ils envoient à des DJ qu'ils ont envie un peu de cibler. Et il y a un de ces promoteurs qui s'appelle Dirty South Joe, qui est un DJ de Philadelphie, qui envoie un mail à Can Blaster, il me semble. Can Blaster, hein, le français.
Ah oui.
Et okay. qu'il donc envoie un pack de promo. Enfin, faudrait qu'il confirme ça, Can Blaster envoie. Mais c'est ce que m'a raconté donc la personne à qui Can Blaster a transmis cette musique-là, c'est-à-dire Sam Tiba. Sam Tiba aussi de Club Cheval, exactement.
Okay, qui était un gros, une espèce de super groupe de musique électronique, super groupe parce que plein de mecs sont devenus des stars derrière, dont Mid, etc. Qui mettent Lille. Ouais. Ok.
Exactement, exactement. Et Sam Tiba, il devient très très fan de Jersey Club parce que déjà à Paris, il y avait toute une scène de gens qui s'intéressaient à la musique de Baltimore et que c'est assez proche. Mais lui, il sent qu'il y a cette musique jersey qui est un petit peu différente, qui a ce pattern très spécifique et commence à vraiment l'investir et sortir des mixtapes.
On est en quelle année là, pardon ?
Là, début des années 2010. Là, je dirais, j'ai pas envie de dire d'autres bêtises, mais à peu près 2011.
Et quoi. Donc la France n'avait pas été touchée avant ça par le jersey ?
Non, mais parce que aussi, faut se dire que le jersey. Je sais même pas si on parle tant de Jersey Club déjà avant le parce qu'on parle de Brick City Club. C'est pas une scène immense quoi. Faut se dire c'est pas si surprenant que ça. Et en fait il y a Baltimore et il y a le Jersey qui cohabitent. Et en fait finalement c'est un petit peu compliqué je pense à discerner pour les Européens de se dire ok c'est quoi cette scène là et tout etc. Il y avait pas forcément des grilles de lecture qu'on a aujourd'hui avec avec Internet. Et donc Sam Tiba c'est vraiment le DJ qui amène ce truc là. Il fait des mixtapes et ces mixtapes sont assez partagés, assez popularisés même par la presse étrangère américaine qui dit que c'est des mix vraiment excellents. À tel point que les OG des Brick Bandits ils commencent à lui dire bah on adore ce que tu fais, est-ce que tu veux pas faire des mixtapes officiels. Et donc via à ce moment-là, il y a une présence du Jersey Club en France, mais c'est vraiment balbutiant, quoi. C'est pas immense. Et il s'avère qu'à ce moment-là, ça perce aussi un petit peu en Europe via des Norvégiens de Kashmir Cat. Tu vois, okay. Kashmir Cat à cette époque-là, je sais pas si vous vous rappelez.
Pas Kashmir Cat.
Kashmir Cat, bah il vient d'un crew de producteurs qui s'appelle Fofo Fadi. Okay. Ils sont des Norvégiens. Il y a aussi un mec qui s'appelle Trippy Turtle dedans, qui ont fait des morceaux de Jersey Club au début des années 2010, et ça a causé pas mal de soucis en fait. Il y a eu un gros tollé quand même quand ils sont mis à faire ça parce que c'est des Norvégiens, c'est pas du tout des mecs de Newark.
Ils se réappropriaient cette culture qui est pas la leur en gros.
Qui est une culture pas seulement américaine, qui est afro-américaine, c'est une culture noire de base. Et il le faisait si vous voyez les visuels de Trippy Turtle, c'est des petits dessins de tortue, en fait, où il masque son identité. Et du coup, en faisant ça, ce qu'on lui reprochait, c'est qu'il esquivait la question de l'appropriation culturelle, parce que il montrait pas que c'était pas un gars de la balle, c'était juste un visage. Et il s'avère que Trippy Turtle, il était signé chez Mad Decent, qui est le label de Diplo. Donc, il tournait énormément, il tournait plus que les gens du Jersey Club, donc ça crée évidemment des tensions quoi à cette époque-là.
Full de l'appropriation culturelle.
C'était full de l'appropriation culturelle. Là où par exemple bah, Sam Tiba il mettait un point d'honneur à pas en produire à ce moment-là, parce que il disait bah moi j'ai pas envie de le faire, je peux en jouer, mais j'ai pas envie de produire. Trippy Turtle c'était différent et d'ailleurs quand on lui posait la question il disait bon c'est de la musique, y a pas de...
Tu vois.
Réponse classique, de l'appropriation culturelle. Voilà, vous connaissez.
Ouais, la musique appartient à tout le monde. Oui,
okay. Ouais. Mais du coup, enfin, c'est aussi populaire le début des années. Je suis désolé, je tunnelise là-dessus, mais c'est aussi parce que le début des années 2010, c'est un moment où les États-Unis commencent à vraiment s'intéresser à leur musique électronique parce qu'ils ont eu les succès de Skrillex. Il y a Avicii. En fait, l'EDM, ça devient un marché immense et ils commencent à se poser la question de est-ce qu'on n'a pas des producteurs maison chez nous qui pourraient devenir potentiellement des stars dans le futur. Et du coup, ils s'intéressent à plein de scènes qui sont pas des scènes immenses. Je pense à la scène Footwork de Chicago, par exemple. Mmh. Et aussi, donc, la scène Jersey Club. Et par exemple, il y a un DJ, DJ Slink, qui est un DJ de Jersey de cette époque-là. Il va signer dans le label de Skrillex à ce moment-là. Et donc, va y avoir un petit écho. Mais le son qu'ils vont produire, il est très marqué par l'époque, ça fait presque de la trap en fait finalement, ils abandonnent par moment, enfin c'est un peu éloigné de ce qu'est le son du jersey en fait.
Alors finalement. Justement parce que là toi quand on parle, on est encore dans du son club, musique électronique, il y a pas encore le pont, la passerelle vers le hip-hop en fait qui bride.
Si c'est présent en fait, c'est présent via le sample en fait.
Okay.
Parce que le jersey au cours des années 2000, ça devient une musique qui sample énormément les tubes de R&B et les tubes de hip-hop qui passent en même temps à la radio. En fait, c'est une musique qui va réactualiser ou plutôt clubifier des musiques qui sont déjà des musiques du top 50.
T'aurais des morceaux, t'as des exemples de ça?
Donc c'est des Jersey Remix en fait.
Ouais, il y a des Jersey Remix, il y a des Tu veux un morceau qui sample ou tu veux un
pas
morceau...
Pas forcément qui sample, mais en tout cas qui justement montre un peu cette hybridation, ce son jersey qui en même temps peut ressembler à du R&B, à du rap. Enfin, en tout cas, tu vois, ça va être à la croisée de culture, tu vois, l'esthétique ouais. sonore.
Tu peux mettre... allez, je vais mettre de DJ Lil Man,
ouais.
Sexy Walk avec Miss Porsche.
Allez, on s'écoute.
La voiture.
Effectivement, on retrouve le pattern.
Oui, oui, oui.
C'est comme, le dembo dans le reggaeton, cette affaire.
C'est vrai qu'il y a un truc comme ça, effectivement.
C'est le même rythme, en fait, qui traverse.
De la rythmique avant tout. Bah alors, c'est marrant parce que. Alors, ouais, tu veux.
Il n'y a pas que la rythmique, juste, il y a aussi les samples qui sont très importants. Il y a des samples que tu vas retrouver un peu partout. Il y a celui du grincement de lit, par exemple, dont vous avez peut-être entendu parler, qui fait genre. Comme ça, qui est dans vraiment plein de morceaux de Jersey Club. Et ça, pareil, il vient du rap. Il vient d'un morceau de Trillville, Some Cut, qui a été produit par Lil Jon. Et en fait, c'est un bruit de chaise qui grince. Okay. C'est des sudistes. Donc, ils ont une rocking chair, quoi. Et il y a ce son de sample qui va. Ce sample, pardon, de lit qui grince. C'est comme ça qu'on l'appelle. Le bed squeak qui se retrouve un peu partout dans le Jersey Club, quoi. Voilà.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est tu voulais parler de ce sujet. Donc là, on revient un peu sur la genèse et puis ensuite comment petit à petit cette scène s'émancipe du lieu d'où elle vient,
ouais.
est parfois réappropriée, atteint l'Europe, etc. T'as parlé de Sam Tiba, de gens qui vont vraiment la produire, etc.
Ouais.
Et pour toi, en fait, tu voulais en parler parce que justement dans les années encore un peu plus tard, dans les années 2020,
ouais.
en gros, autour de 2020 en tout cas. Il y a une espèce de résurgence, mais quasiment mainstream, de caractéristiques de la Jersey, du Jersey.
Ouais, ouais.
Alors là, on va te poser la question qui
ouais.
va peut-être te valoir des attrapages de colle sur Internet.
Dis-moi tout.
Qui, en premier, en France, qui, quel artiste
dans les artistes mainstream, je dirais que c'est Orelsan qui le fait en premier.
Ah ouais.
Ça alors.
Sur quel morceau?
Du propre. Du propre de Orelsan.
Alors là, je vérifie. On
ça
est
doit
en
être en 2021.
Exactement, sur Civilization. Attends, on se met rapido, c'est un petit extrait pour voir à quoi ça ressemble.
San.
Ah, je vois ce morceau en plus.
Est-ce que tu peux garder tes AirPods dans tes oreilles quand je te parle, s'il te plaît, bâtard?
Ouais.
Ok.
San.
Ah bah c'est du propre.
Hey, c'est du propre.
Hey. 5h du mat sur le port, un dernier shot.
Dernier shot.
C'est pour ma ville, sauce magique, beau gosse.
Sauce magique, sauce magique.
Mort en ville quand elle est morte.
Ramener ça dans le rap.
Alors, en fait, le fait que Orelsan l'a fait, ça a pas fait un effet boule de neige. C'est-à-dire qu'il l'a fait, mais c'est pas tant ce morceau-là qui va déclencher une vague de rappeurs qui s'y mettent. Ce qui va le déclencher, c'est un rappeur du New Jersey qui s'appelle Bandman Real, qui va lancer le courant Jersey Drill. En fait,
ouais.
il s'associe avec un producteur qui s'appelle MC Vert, qui est un gars de la nouvelle génération, qui est vraiment très très jeune, qui est un danseur de base, hein, parce que le New Jersey, il y a toute une culture de la danse, et il va se mettre à produire des morceaux de Jersey Club beaucoup plus rapides qu'avant. Et Bandman Real, il pose dessus, et il ramène en fait l'esthétique un peu drill, les thématiques de la drill, et c'est ces morceaux-là que Kershak, Stowe vont écouter et vont se mettre à dire, ok, on a envie de faire la même chose.
C'est quoi le classique de Bandman Real, si on devait en retenir qu'un?
Boulette. B-U-2-L-E-T.
Eh ben, on peut s'écouter Boulette alors.
Allez, très bien.
Allez, on s'écoute ça.
MC, make another hit.
Project, X. Bro, they be sending them
bullet.
Damn, better watch your motherfucking top. They say, little band man, goddamn, nigga, when the song gonna drop. Chill, you should know that it's coming. No, I'm not blood, but you know how I'm bumming. Full of awards, this little shit punch. Ain't loving those drags, ain't doing no cuffing. Damn, and she like how I bounce. She on my dick, so I put it in her mouth. Yeah, if I'm no, but I'm claiming the sound. Beefing like they know the talk for the town. Gotta keep on moving the load up. This little bitch weird, she talking bitches with me. I ain't taking no photos. Old niggas be mad cause I'm up.
Il y a
une BPM là.
Alors déjà c'est hyper accéléré. Et en plus le morceau dure 1 minute 38. Donc
ouais.
là, c'est vraiment il y a tout condensé et tout. Je t'interroge juste, après tu nous continueras à nous en parler David, mais j'aimerais bien demander, parce que Lolita, toi tu déjà 2021 tu bossais dans la musique, etc.
Bien
Est-ce
sûr.
Que c'est un truc que t'as vu venir? Tu te rappelles cette rythmique? Elle t'a...
Moi je l'ai vu venir du point de vue de la pop, mais alors plus récemment encore.
Okay.
Et donc en fait on revient à ces questionnements d'appropriation culturelle.
Mmh.
Moi je le vois vraiment plus aujourd'hui dans la pop mainstream, on l'entend en introduction de l'album de Addison Rae, okay. Sur le morceau New York. On l'entend, je crois, sur le dernier tube de Blackpink, mm-hmm. produit par Diplo, qui
là,
s'appelle
Là, tu parles
Jump.
De morceaux vraiment de,
vraiment
y a
de
quelques
cette
mois,
année, ouais, ouais.
Cette année, ah ouais.
Et j'avais un autre exemple en tête, oui, aussi dans l'album de Zara Larsson qui vient de sortir. Donc moi, c'est vraiment, je l'ai vu arriver dans la pop, qui est vraiment mon domaine de prédilection, comme tout genre qui devient ultra populaire et qui est ravalé par l'industrie de la musique.
Alors là c'est hyper intéressant ton témoignage, parce que ça confirme que c'est pas seulement de manière éphémère entre guillemets et dans un truc un peu pointu type dans le rap, je sais pas, qu'on s'est réapproprié ça, mais c'est vraiment, il y a une vague mondial jusqu'à la pop mainstream qui reprend ses codes jersey,
quoi.
C'est
parce qu'il y a quand même une proximité, David l'a évoqué, avec la trap,
ouais.
qui fait que les
pour le
deux,
côté drill effectivement,
ouais, les deux styles en fait ont un peu ont pu vraiment s'hybrider ensemble, je pense, parce que il y a aussi l'esthétique trap qui a pris le lead de manière incroyable dans le hip hop et qui a aussi transpiré et parti sur la pop aussi, quoi.
Je pense que la pop et le rap, c'est deux machines qui fonctionnent un petit peu de la même manière, c'est-à-dire qu'elles ont besoin sans cesse de rythmique ou de gimmick pour se réactualiser et pour rester fraîches, quoi. Et donc de la même manière que le moment où ça arrive dans le rap en 2022, c'est un moment où la drill, ça commence un petit peu à s'essouffler peut-être, et du coup on a besoin peut-être de ramener quelque chose de nouveau, un sang neuf. C'est aussi un moment où les gens genre Kershak, etc., la Jersey drill, c'était un bon moyen de se faire connaître aussi, parce que tu deviens la personne qui porte un nouveau mouvement, et donc c'est intéressant d'être les premiers à aller chercher un nouveau son.
Pour préciser, parce que pardon, tu parlais de Bandman Drill, qui lui innove avec cette Jersey drill, donc hybridée avec cette nouvelle forme rap, voilà, qu'on retrouve vraiment sur la planète entière, y compris en France. Et tu as des gens qui font pareil en France, tu cites Kershak notamment, et c'est vrai que c'est ce qui va être un peu caractéristique de cet artiste, c'est qu'il il prend à son compte cette Jersey drill.
Ouais. Alors ce qui est drôle, c'est que ils sont en contact avec les gens de Newark, et ils reçoivent, pour rentrer dans la technique, ils reçoivent vraiment les éléments qui permettent de créer la Jersey drill, quoi.
Genre des drum kits, des trucs comme ça.
Exactement. Ah ouais. Mais ils se disent c'est pas ce qu'ils cherchent exactement, et donc ils vont reproduire les patterns de la Jersey drill, mais en prenant des drum kits qui viennent de la drill, pour garder un aspect un petit peu plus sombre et un petit peu plus proche de ce qui se fait dans leur monde du rap. Et ce qui est intéressant, c'est que en France, c'est la vague de Jersey, ça touche en même temps le mainstream et en même temps l'underground. C'est-à-dire que tu vas avoir des artistes beaucoup moins connus, je pense à des Wallace Cleaver, des Implacable, des Mandy Spy, qui vont utiliser par moment du Jersey Club aussi, et tu vas en avoir du Jersey Club du coup qui vend énormément aussi. Mais ce que je dirais qui est différent entre 2022 et maintenant 2025 où c'est utilisé dans la pop, c'est qu'en 2022, il y a une espèce d'effervescence. On dit, ah, il y a une vague, il se passe quelque chose autour de ce son, etc. On parle beaucoup de la Jersey. Mais là, quand ça arrive chez Zara Larsson, chez Addison Rae.
Que citait Lolita tout à l'heure.
Oui, voilà. Chez Amarae aussi. On le cite pas vraiment, en fait. C'est devenu un outil de plus qui est utilisé par la pop, mais qu'on va pas nécessairement traiter différemment.
On n'est plus connecté forcément aux racines, à l'histoire qu'il y a derrière, etc. Quoi.
C'est ça.
Qui est le parcours classique de l'appropriation culturelle, justement, où là, t'arrives à perdre la définition même du son. Quoi.
Ouais. En fait, ce qui est, c'est pas, pour moi, c'est un peu inévitable si on veut que la pop utilise des musiques comme ça. Ce qui est pas inévitable, en revanche, c'est l'invisibilisation. Et là, c'est plutôt ça le problème, c'est que on ne pointe plus du doigt que c'est du Jersey Club, et même on va même plus tant se soucier de qui le produit. En fait, les producteurs qui vont travailler, producteuristes qui vont travailler avec Addison Rae, par exemple, c'est des disciples de Max Martin. Donc Max Martin, hein, l'immense super producteur de la pop américaine. Mais quand c'est Lil Uzi Vert, par exemple, qui avait fait un gros morceau Jersey Club, Just Wanna Rock, il bosse avec MC Vert, qui lui est un mec de Newark, tu vois. Il a encore le souci de se dire, ok, je vais faire quand même croquer un gars de la source.
Alors, est-ce qu'on peut s'écouter, on va s'écouter un Kershak quand même, parce que voilà, c'était la figure certainement du revival Jersey entre guillemets en France, et puis peut-être un des sons que tu as cité aussi, Lolita,
York de Addison Rae, je pense que c'est un bon exemple.
Eh ben, faisons ça. Toi, David, il y a un morceau de Kershak que t'aimes bien, qui est vraiment dans le style Jersey.
Ouais, ça peut être, je pense le plus gros en France, c'est Gazo Nolèche, et il est en feat dessus Kershak, il me semble.
Eh ben, écoute.
Avec Favé aussi, qui est un autre.
Merveilleux. C'est parti, on s'écoute ça.
moi là est gangsta. Hey, pris la sribar SO, sont tous en talk. Ici nos obsolètes, comme aux yeux sur les smokes. Y'a que quand son cas vu bouge, que je perds contrôle, ok. Vous perdez la vie pour les follow. Là, tous mes démons sont de mèche, PSB ne suit jamais nos lèches.
T'es la chère qu'on a trouvé au spa, jusqu'à taf ta bêtise et je l'emmène au spa. Et y'a que sur les réseaux qui parlent, ici ils referont jamais un pas. Moi cette année je les fous dans mon spliff, là ça y est j'ai mis la baie dans la leaf. Quoi une adresse et on tire dans le tas, cagoulé pour qu'ils me reconnaissent pas. Là je suis bête et j'ai fumé du shit, sûrement Glock et machette, non c'est que j'ai l'équipe.
Bon, effectivement, on retrouve encore une fois ce motif rythmique.
Ouais.
D'ailleurs, c'est presque parce que tu disais que c'était pas que ça.
C'est
le
pas
jersey,
que ça.
Mais dans sa réappropriation, parfois c'est un peu que ce qui reste, c'est impressionnant ou bah, j'exagère.
Non, en fait, il y a forcément. Enfin, je trouve qu'il y a souvent un phénomène de, je dirais, d'essentialisation, pardon, des genres de musique quand on essaye de se les approprier parce qu'on les regarde de manière un petit peu scolaire et de se dire ok, faut que je suive la recette à la lettre et donc oui j'ai bien le leaky grince, j'ai bien cette rythmique là et donc c'est bon j'en fais. Alors que les producteurs de New Jersey ils s'embarrassent pas trop avec ça et en fait eux ils se sentent beaucoup plus libres de faire évoluer le son dans telle ou telle direction parce qu'ils n'ont pas un besoin de légitimité de dire ok je suis bien la recette. Quand un Européen il va reprendre du Jersey Club, s'il met pas tous les éléments, les autres vont lui dire ah non tu n'as pas fait le Jersey
c'est
Club.
C'est pas ce qui s'est passé en fait sur tous les styles musicaux qu'on a intégrés ici en fait.
Ouais bah en fait c'est que du coup il y a une forme de dilution, c'est qu'on perd aussi la complexité qu'ils ont. Ça va beaucoup tourner par exemple, je parle encore donc du Bed Squeak, mais il y a d'autres samples qui sont très très présents dans le Jersey Club. Mais vu que le Bed Squeak c'est le plus connu, c'est celui que Drake a pas mal utilisé aussi à un moment. Bah en fait c'est celui que les gens ils vont vraiment identifier. Vu que le pattern c'est le truc le plus connu pour dire tu fais de la Jersey, c'est ce que les gens ils vont utiliser. Mais si tu prends une productrice comme Unique, qui est une productrice du New Jersey, qui est un très grand nom de la scène Jersey Club, bah elle va faire un morceau comme Microdosing.
J'adore ce morceau.
Qui est un morceau house. Mmh. Et sa manière de couper les samples, c'est une manière de couper comme on fait dans le New Jersey. Mais en fait, les gens vont jamais dire que c'est du Jersey Club, alors que sa manière de faire, c'est une manière de faire du Jersey Club.
Oh bah, avant qu'on s'écoute Addison Rae, on se met un extrait de Microdosing, c'est j'adore ce morceau. Vas-y.
You want me? Come take a dose of this drug. Stop microdosing my love. Stop microdosing my love. You want me? Come take a dose of this drug. Stop microdosing my love.
Si tu veux le moment, c'est plus sur la fin, je crois.
Ça marche.
You want me? Come take a dose of this drug. Stop microdosing my love. Stop microdosing my love. You want me? Come take a dose of this drug. Stop microdosing my love. Stop microdosing my love.
Là, on voit même le lien avec la culture hip-hop, ça rappe en fait, tu vois.
Oui. Bah, il y a pas
sur le sample, pardon. On a entendu quand même là un peu.
Non, je crois,
ouais.
Je crois que c'est encore à la fin.
Attends, tu sais quoi, j'avance. Tu me dis.
Ça là.
Ok.
Après bon, c'est une manière de couper qui est courante dans la club musique américaine quoi.
Ouais.
Mais c'est elle le fait vraiment aussi parce que elle vient de cette scène Jersey Club quoi.
Ouais,
voilà.
Okay.
Et donc ça par contre, c'est pas considéré comme du Jersey Club.
Non, mais en fait ça reste une productrice du Jersey Club qui fait un track de house, donc il y a des moments où en fait ça rentre dedans quoi. Ouais.
Le morceau d'Addison Rae, c'est New York, c'est ça?
Ouais.
Tu peux d'ailleurs, parce que ça peut recouper d'ailleurs un sujet auquel Daz a pensé, j'espère qu'on aura le temps de le traiter. Enfin, celui-là, je pense, oui. C'est, que tout le monde connaît pas Addison Rae, alors que c'est une star mondiale.
C'est vrai, Addison Rae, comment la situer? Bah, à la base, c'est une danseuse TikTok, hein, c'est comme ça qu'elle se
fait
connaître.
Ah, tout s'explique.
Et elle a un premier EP qui sort en 2023, qui est d'ores et déjà produit par deux producteurs qui font partie du studio des écuries de Max Martin. Il y a déjà un feat avec Charlie XCX à ce moment-là. Donc elle est dans ce giron-là. Puis en 2024, elle apparaît sur un remix du morceau Vantage de Charlie XCX. Donc elle s'inscrit vraiment dans un héritage de la pop de musique électronique. Et donc elle a dévoilé cette année Addison, donc son premier album. Encore une fois produit par, cette fois-ci, deux productrices affiliées à Max Martin. Donc c'est vraiment un opus qu'elles ont conçu à trois. Et donc ça va vraiment puiser du côté des musiques électroniques, beaucoup de textures. Moi je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, honnêtement. Je me demandais comment ça allait sonner. Mmh. Et en fait c'est assez qualitatif, je trouve.
Mmh, ouais.
Bon, on s'écoute New York.
Allez.
Allez.
Take a bite of the Big Apple.
Oh God, I love New York, love New York, love New York, love New York, love New York. Feel so free, feel so free, feel so free. It's my religion. Love New York, love New York, love New York, love New York, love New York. Feel so free, feel so free, feel so free. It's my religion. Out of control. Time's moving slow. LA's home, but I'm ready to go. Black car, pick me up from the air.
Il arrive pas tout de suite.
C'est
pas très bon, c'est un poil alors.
Attends, ça arrive.
Ah, c'est marrant parce que alors on a effectivement la rythmique du kick, mais vraiment, c'est pas du tout le même kick.
Il en manque un, non?
Ouais, il manque un au fond, mais ça reste c'est cette même rythmique là, ouais.
Ouais, on voit que c'est réadapté pour un genre musical complètement différent.
Et du coup, ça, eux, ils le font, je veux dire, en connaissance de cause. Tu vois, genre, c'est quelque chose de conscientisé où ils se disent juste, ah, ça bouge bien, vas-y, on le prend. Ils s'en foutent de ce qu'il y a avant, en fait.
Ça, c'est difficile à dire. Faudrait les interviewer sur le sujet.
Ouais.
Y a un truc, moi je m'avance un peu, je pense que c'est pas le cas de tout le monde, mais on sait aussi qu'il y a une forme de suivisme parfois dans l'industrie musicale, en particulier quand t'es une grosse star de la pop, et c'est-à-dire que quand t'as entendu des trucs un peu plus niche, et tu dis au producteur, ah ça c'est plutôt cool, ou lui-même d'ailleurs te le suggère parce que lui aime la musique, etc. Ça se passe aussi souvent comme ça, quoi, un peu de mimétisme entre guillemets.
Ouais, bah après je pense pas que cette rythmique-là soit une sorte de cheat code et si tu l'utilises ton morceau va marcher, ouais. Ce qui pourrait dire que on fasse du swivisme, mais c'est ce qu'on peut dire, c'est que c'est une rythmique qui a fonctionné par le passé et on sait que c'est un chemin où si tu l'empruntes, tu peux aboutir à quelque chose d'intéressant. Donc un producteur, une productrice qui est un peu au fait de ce qui se passe dans l'industrie peut se dire ah bah tiens pour ce morceau tu cherches un truc un peu club, il y a cette rythmique-là qui pourrait marcher, etc. Et je pense que c'est pas forcément plus complexe que ça, d'autant plus que c'est pas forcément des gens qui sont rattachés à la scène, enfin tu peux pas trop les lier plus que ça, quoi. Mis à part que New York c'est à côté de Newark, quoi.
Ça me donne envie, peut-être pour conclure un peu sur ce sujet, en fait, alors on va ouvrir horriblement, mais peut-être quand même quelques mots là-dessus, parce que moi j'étais content que tu choisisses ce sujet, que je maîtrisais pas aussi bien que toi, donc j'ai appris plein de choses là. Mais par contre, ce que je savais, c'est que ça s'inscrit dans un truc que j'ai l'impression de sentir un peu dans la musique internationale. C'est le fait quand même que depuis au moins 10 ans, je dirais, la musique club, y compris les musiques de niche électronique, ont leur place dans des trucs beaucoup plus mainstream, sont réappropriées dans le rap, dans la pop, voire dans le rock, et qu'il y a vraiment ce truc de... même le lieu en tant que tel, le club, la discothèque, a à nouveau sa place un peu. Je pense que c'est un peu désuet à un moment. Même en tant que Français, on peut
la
avoir
eu... La boîte de nuit, tu veux dire?
Ouais, tu vois. En tant que Français, il y a eu un moment même un désamour, je crois. Et puis il y a une espèce de retour en se disant « Ah ouais, en fait, c'est riche. » Et il y a un truc qui se passe autour du club.
Tu sais à quoi c'est lié, ça?
Ouais, vas-y.
Dans mon livre, en tout cas, c'est... Ouais. Ableton.
Ah ouais?
Ableton.
Ableton, le push. Tout le monde utilise ça, quel que soit le
style. Tu penses
que
c'est les outils?
C'est les outils. Pour moi, c'est les outils.
Et je suis pas certaine que les gens retournent en club, par contre.
Ouais.
Il y a un amour de la musique de club, mais ouais. Est-ce qu'on y va?
Mais déjà, on rentre pas, nous.
Ça rentre pas. Non, ça, c'est un peu évolué. Enfin, il y a des endroits un peu durs. Mais ça a évolué, quand même, heureusement. Je
ouais,
crois.
Bah, il faut qu'on fasse la musique, quoi. Ouais, sinon, ok. Regarde, David, il est obligé de mixer lui-même.
Non, rassure-nous, tu rentres en club, David. Même quand tu mixes.
Moi, je vais toujours au même club, donc finalement.
Tu vas où, tu veux dire?
Je vais à la station. Shout out la station.
Okay.
Gare des Mines, voilà.
Mais oui. C'est pas très loin de chez moi.
Ah, je sais. Ouais.
Bah non, mais sur cette question de la musique de club qui arrive, bon, je pense qu'on a un album en tête quand même, c'est celui de Charlie, quoi.
Ouais. Charlie, je pense même avant, il y avait eu l'album de Beyoncé.
Renaissance.
Ouais, qui avant Brat, si je dis pas de bêtises, ouais. Qui déjà, tu vois, était hyper influencé club.
Ouais, mais je pense que Beyoncé, il y a la question aussi de c'est sa trilogie de rappeler que ces musiques-là sont des musiques noires de base, ouais. Que ça soit la country et la country, parce que ça, je précise pour les gens qui savent pas. Ça hérite d'instruments qui ont été importés par les esclaves, qui ont été ensuite modifiés pour arriver au banjo, trucs comme ça, et donc la country, quoi, voilà. Et la house, c'est pareil. C'est l'idée, c'est aussi de réinvestir cette esthétique et de rappeler que c'est une musique noire, quoi. Mais pour Charlie, je pense que c'est différent. Pour FK Twigs aussi, c'est un petit peu différent. Amarae aussi récemment, elle a fait un album de pop qui est très club aussi. Je pense que, alors, à l'époque, on avait un petit peu cette théorie de, c'est peut-être un, au début, enfin, fin des années 2000, pardon, il y a un moment où on chantait tous, Tonight is gonna be a good night. Mm. Et ça coïncide à un moment où les gens avaient plus une thune.
C'est aussi. Qui ça déjà?
C'est David Guetta.
Mais avec comment il s'appelle?
Black Eyed Peas.
Avec Black Eyed Peas.
Exactement. Ça. Ouais. Et ça coïncide avec un moment où c'était la crise des subprimes, etc., quoi. Et donc à l'époque, les gens, il y a un article qui parlait de cette époque-là en disant que c'était que la pop était une forme de pop de récession qui était très court-termiste, dans sa manière de regarder les choses et donc de dire on va faire la fête maintenant parce qu'on sait pas trop de quoi demain sera fait.
Ah ouais.
Et donc que beaucoup de titres de pop de cette époque-là très précise de la fin des années 2000 avaient cette vision court-termiste, étaient des musiques de club, de fête, de libération et de on va pas trop penser à demain. Et il s'avère que Charlie, ça arrive en 2024, à un moment où alors... Bon, la finance, c'est ce que c'est, mais il y a aussi le fascisme, enfin tout un tas de choses qui sont un peu inquiétantes et qui font que on sait pas trop de quoi demain sera fait. Et donc c'est possible aussi que ça soit lié à ça, que en fait le c'est vraiment une théorie, hein. C'est donc que l'envie d'aller ressaisir le son des clubs et d'aller rechercher une énergie qui est vraiment l'énergie de on fait la fête maintenant et on pense pas trop à demain, elle soit liée aussi à un sentiment d'époque de on croit plus trop en l'avenir.
T'as une théorie, toi, Lolita? Enfin, une théorie, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, qu'est-ce que ça t'évoque un peu, ce retour un peu du son du club, tu vois?
Moi, j'aime bien cette théorie, mais je trouve qu'elle a ses limites parce que pour moi, il n'y a pas eu de moment de up, en fait, entre la fin des années 2000 et aujourd'hui. Là, je pense au confinement, parce que c'est un des premiers éléments auxquels j'ai pensé quand tu m'as écrit et que tu m'as dit on va chercher quels ont été les grands bouleversements musicaux des 5 dernières années. Et 5 ans, tout de suite, c'est 2020. Mmh. Donc, j'ai vraiment essayé de penser à partir de là. Après, est-ce qu'on commence pas à en être un peu loin aussi? Je sais pas.
C'est loin, mais ça a eu le temps de maturer aussi. Je pense que, aussi, c'est la vision du club défendue par Charlie, par exemple, est très différente de la vision du club défendue par FK Twigs. Charlie XCX, dans sa manière d'aller chercher le club, c'est vraiment, il y a quelque chose de très désinvolte, de très, je fais la fête et je suis set go, quoi, pour le dire en langage courant. Je suis la personne stylée, mais c'est quelque chose qui est pas forcément très, je veux pas dire que c'est pas millimétré, que c'est pas précis, parce que l'album est très bien produit, etc. Mais il y a ce sentiment, même quand tu vas l'avoir sur scène, que c'est très libéré dans la manière de faire. Alors que si tu vas écouter FK Twigs, il y a un côté quand même très cadré, très presque art contemporain, danse contemporaine, etc. Et donc en fait, finalement, c'est aussi montrer que le club, c'est pas juste un endroit où on va faire la fête, c'est une multiplicité d'états d'esprit. Ça peut être l'endroit où tu vas aller pour te bourrer la gueule, pour le dire très simplement, et et rentrer en tacos et vomir chez toi, ou alors un endroit où tu vas vivre une expérience transversale qui va te faire complètement revoir comment tu perçois le corps et tout, etc. C'est tout ça à la fois.
Ouais, parce qu'il y a une forme d'utopie aussi du club, enfin je dis d'utopie parce que ça se passe pas toujours comme ça, même si c'est une réalité.
Le dernier endroit où tout le monde se croise.
Du lieu d'inclusivité aussi.
Il y a plus le service militaire.
Et puis toutes les minorités, etc., qui ont souffert, souvent se sont emparées du club, que ce soit les minorités de genre, tu vois, ou alors tout simplement les Afro-américains, etc. Enfin, dans l'histoire de la musique, on voit que le club a été aussi un refuge pour beaucoup de minorités, quoi.
Pour d'autres, c'était le parking du club, mais ouais, j'entends.
Oui. Il y a aussi que la musique électronique est dans une phase assez immense en ce moment, quoi. Genre, je pense au phénomène de hard techno. C'est des événements, mais massifs, comme on n'a jamais vu, et qui sont très réguliers, qui sont très courants. Et du coup, ça fait que ces sonorités-là sont beaucoup plus acceptables qu'elles l'étaient à une certaine époque. Mmh. C'est beaucoup plus normal d'entendre un kick de techno régulier dans une musique de pop parce que tu te dis, ah oui, ok, c'est, ouais, j'ai entendu un truc similaire en club récemment, quoi. C'est pas un son alien comme ça pouvait être à une certaine époque. Mais finalement, Madonna, elle avait fait vogue dans les années 90 et c'était un petit peu cette idée-là aussi, quoi. Mmh.
Donc, c'est ça. Et puis les artistes aujourd'hui dont on a parlé jusqu'à présent, c'est aussi des gens qui étaient, donc qui sont peut-être dans leur trentaine aujourd'hui, qui étaient donc enfants ou qui étaient sur leur début d'adolescence en 2009-2010 et donc qui ont fantasmé cette époque-là, cette époque des fêtes complètement débridées et qui le réinvestissent aujourd'hui. Brad de Charlie XCX, c'est aussi un album très inspiré par un label qui est Headbanger, qui est un label français qui a façonné l'esthétique de la fête de la fin des années 2000, début des années 2010 aussi. Donc il y a cette volonté de s'approprier quelque chose que tu as vu enfant, mais du coup, tu n'étais pas encore tout à fait là. Et enfin, tu peux en être parce que ça y est, t'es adulte et ça y est, t'es dans le studio.
À ça, je ne savais pas la référence à Headbanger. C'est un truc qu'elle a déjà dit.
Elle l'a beaucoup dit. Ouais. Elle a notamment parlé de Uffy, ouais.
Ah ouais, c'est marrant.
Bah, c'est vraiment Uffy de notre époque.
Hein,
Ouais.
Et Das, tu disais un truc qu'on a un peu écarté rapidement, mais qui, je pense, est quand même vrai. C'est la question des outils, effectivement.
Bah, pour moi, ouais. En fait, à un moment donné, chaque style de musique avait sa façon, ses outils propres pour
produire cette musique. La MPC pour le rap,
la MPC et la platine pour le rap, les instruments acoustiques pour le rock et tout ça. Et en fait, c'est assez drôle parce que et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est abordé dans le documentaire sur qui retrace la carrière de DJ Mehdi. C'est qu'en fait, la façon de produire du son dans ce que les mecs appelaient la French Touch. Moi, quand j'en écoutais, j'étais en mode bah. C'est du funk samplé en fait, tu vois, c'est littéralement du peur.
Ouais, leur disco, truc,
c'est tout ce que tu utilises, tout ce qui était utilisé dans le rap, sauf que c'était pas fait de la même manière. Dans le rap, la limitation technologique du début des années 90 faisait qu'au niveau des samples, tu pouvais pas sampler une boucle de un quart d'heure, tu vois, donc tu faisais des trucs un peu syncopés, etc. Mais je veux dire, la façon de produire le Daft Punk, ce qu'ils font, bah, t'étais en mode, ouais, ok, ça pourrait être du peur en fait. Et ça, Mehdi, il l'a compris, et du coup, il s'est mis à faire poser des mecs de la street, du rap, sur des instrus électro, et ça a donné le 113, et ça a donné une explosion, en fait, de saveur, tu vois. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quasiment tous les gens qui produisent du rap aujourd'hui le font avec un Do type Ableton ou Logic ou n'importe quoi.
Qui est le même outil que ceux qui est musique électronique.
Avec un push, donc le push d'Ableton, c'était cette surface de contrôle avec 64 touches. Alors que dans le Peura, t'étais sur 16, tu vois. Et en fait, maintenant, tu fais avec le même logiciel et le même matériel, tu fais de l'électro, tu fais du Peura, tu fais de la pop, tu fais tout, en fait. Pour moi, c'est vraiment un truc où, tu vois, tu parlais de la recette. Et ça, c'est vraiment super important aussi parce que la musique moderne, ça marche à la recette, en fait. Les gens sont en mode... Moi, j'ai vu des gens s'entretuer, justement, pour dire, est-ce que c'est de la jersey ou pas? Mais non, parce que du coup, il n'y a pas le bon truc. Et tu vois, tu te dis, waouh, est-ce que les gens qui faisaient cette musique avaient conscience qu'à un moment donné, il y aurait des gens dans un laboratoire, dans une salle blanche, tu vois, avec une blouse, en train de prendre des notes pour dire, ok, le R&B, c'est comme ça, et ça change pas, tu vois. La jersey, c'est ça, le reggaeton, c'est ça, le rap, c'est ça, tu vois. Et en fait, comme tout le monde s'échange les mêmes plugins que tout le monde veut. Là, il y a beaucoup de suivisme aussi, tu vois, qu'ils veulent refaire le son de machin. Mmh. Et en vrai, attention, il y avait du suivisme dans les années 90.
Oui, oui, oui.
Le nombre de rappeurs qui allaient voir leur DJ à l'époque, ils disaient, ouais, fais-moi un son comme Mobb Deep, s'il te plaît. C'était exactement ça, tu vois. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas ces sons de plugins. Quand Avoc, il sample le bruit d'une gazinière que t'allumes pour préparer ton crack, ça, c'est, tu vois, il n'y a pas un plugin gazinière de Avoc du Queens, tu vois. Mmh. Alors que là, maintenant, t'as des drum kits. T'as des presets, t'as tout. Et en fait, les gens, ils les prennent. Et en plus, tu vois, tu sors un morceau sur YouTube, en 3 minutes, t'as des commentaires qui sont en train de t'expliquer comment le truc a été fait. Il y a des gens qui vont te chercher le sample. Ah ouais, putain, il a samplé ce truc-là, ok, trop bien, machin. Donc en fait, il n'y a plus de mystère. Tout est reproductible à l'envie, tu vois. Donc il y a un truc comme ça que je trouve à la fois super intéressant parce que ça phosphore à bloc, tu vois. Et d'un autre côté, c'est un peu flippant parce que du coup, tout le monde veut faire les mêmes choses tout le temps. Et il faut que quelqu'un prenne le truc et puis d'un seul coup, ça va créer un boulevard et tout le monde va s'engouffrer dedans.
C'est-à-dire que c'est toujours pareil. C'est-à-dire que heureusement, le pendant à l'ère du numérique, le pendant à cette uniformisation, c'est le fait aussi qu'il y a des milliards de niches et qu'effectivement, la diversité, tu la trouves en fait en disant. Et en fait, elle fédère ces niches. C'est même pas d'ailleurs que c'est pas 10 mecs qui écoutent, tu vois, dans leur quartier. C'est qu'en fait on a des milliers et des milliers sur internet, mais par contre c'est absolument pas mainstream, et c'est là où tu trouves la richesse effectivement, là où sur la production un peu plus mondiale ou en tout cas à l'échelle nationale tu as des gros trucs etc, très vite c'est un peu plus standardisé, c'est vrai, mais ça c'est pas nouveau, c'est juste qu'effectivement le numérique donne une dimension un peu
En fait ça s'accélère, en fait la façon, tu vois, le fait que dans la pop d'aujourd'hui tu puisses avoir des trucs qui étaient de niche il y a 5 ans. Tu vois, il y a un accélérateur quand même, parce
ouais,
que
c'est vrai.
Généralement ça prend beaucoup plus de temps, tu vois.
Lolita, David, sur ce côté accélérateur, c'est un truc qui vous parle?
Ça, j'avais travaillé dessus, oui. J'avais fait justement un article pour Trax à l'époque, le magazine. En 2023, c'était sur comment l'EDM était devenu cool. Et j'avais notamment interviewé une autrice qui s'appelle Lina Abascal, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Never Be Alone Again, sur justement la période de la Bloghouse. Et donc, juste avant l'EDM, enfin, la percée de l'EDM qui est vraiment en 2013.
L'EDM, juste pour rappeler un peu, c'est cette musique électronique mainstream, c'est David Guetta, si
exactement,
je veux
dire. Exactement, c'est Skrillex, début des années, début des années 2010. Et en fait, on se rendait compte que t'as un cycle dans la musique depuis le 21e siècle, qu'on pensait être, en tout cas qui a été un cycle de 20 ans, c'est-à-dire que les morceaux, les genres musicaux d'il y a 20 ans revenaient à la mode et étaient réinterprétés 20 ans plus tard. Et en fait, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a eu une accélération qui arrive au fait que maintenant, c'est 10 ans plus tôt, ce qui était cool il y a 10 ans revient en ce moment. Et donc là, par exemple, moi j'ai un exemple tout récent en tête, c'est mais qui a la frontière de la musique, mais qui en est, c'est Kylie Jenner, qui célèbre les 10 ans de sa marque de cosmétiques cette année, et donc qui reprend son alter ego d'il y a 15 ans, qui s'appelait King Kylie, à l'époque où c'était mi-Tumblr, mi-début d'Instagram, où elle avait les cheveux colorés, et elle remet ça au goût du jour, et elle a sorti un morceau de pop, où elle chante dessus en reprenant son alter ego de 2015, avec l'esthétique visuelle de 2015. Donc,
qui est déjà rétro, presque.
Qui est déjà rétro, en fait.
Ouais.
David,
oui, moi je souscris totalement à ça. En fait, il y a un bouquin qui a été écrit sur ce phénomène qui s'appelle Retromania, qui a été écrit par Simon Reynolds, qui est un critique britannique assez culte, et donc il parle de cet effet cyclique. Et c'est vrai que par exemple tu peux l'observer même dans le rap anglais, quoi. Je pense que le rap anglais ressemble beaucoup à ce qui se faisait il y a 15 ans, même esthétiquement. Je pense à un mec comme Feng, ses clips, on se croirait vraiment en 2010-2011, quoi. Donc c'est assez frappant, mais je pense qu'aussi ça parle peut-être d'une incapacité à concevoir le futur aussi. En fait, finalement, c'est un autre penseur critique musical qui s'appelle Mark Fisher, qui parle d'une lente annulation du futur, et en fait qui parle du fait que on est complètement pris dans cette boucle de toujours ressasser cette culture qu'on a construite, de toujours être perdu dans des références et en fait ne plus réussir à imaginer l'après, en fait, finalement. Alors que bon, moi je suis pas toujours 100% d'accord avec ce truc de rétro, parce que je pense aussi que dans la fusion par exemple de plusieurs influences, ou dans l'inclusion de scènes qui étaient pas vraiment incluses dans la culture globale, tu vois, je pense aux scènes par exemple latines, reggaeton, etc., ou les scènes de la funk brésilienne, la musique l'afrobeat, etc., qui étaient pas inclus jusqu'ici dans le dialogue de la musique occidentale, quoi. Bah déjà là il y a quand même un changement de paradigme aussi qui te laisse entrevoir un futur où peut-être que ces musiques là elles vont pouvoir cohabiter avec ces musiques, les musiques qu'on fait aujourd'hui. Et c'est vrai que la pop d'aujourd'hui, on peut entendre des artistes de pop francophone faire du reggaeton, de l'afrobeat, des trucs comme ça, et c'est pas du tout surprenant.
Alors c'est incroyable, parce que tous nos sujets sont interconnectés, parce que là on a évoqué effectivement la place de la pop et le fait que tu peux ne pas connaître Addison Rae aujourd'hui alors qu'elle a des millions et des millions de streams et que c'est une star mondiale, mais on la connaît pas forcément. On a évoqué aussi le reggaeton, l'afrobeat. Ce qu'on pourrait faire, c'est déjà juste pour terminer sur parce qu'en fait tout ça c'est marrant, ça a été amené. On est encore dans ton sujet en fait, hein, le jersey. Ah. Non mais c'est encore lié en fait.
On a explosé le chrono. Par contre,
on a complètement explosé le chrono, mais c'est encore lié.
Vous aviez dit 15 minutes.
tu parles. Non mais on va dire une demi-heure. On va faire quatre grands sujets en une demi-heure.
Une demi-heure, puis, ça voilà. Fait une heure qu'on discute.
Non, on a fait des pauses.
Ah, ok.
On va voir comment on s'en sort. Il y a quand même ce truc de. Je trouve aussi que ça illustre cette accélération dont on parle. C'est qu'il y a des mecs qui se sont fait avoir. Je pense
tu
par exemple.
Tu parles aux gens qui ont pris la vague de la tectonique, par exemple, et qui sont laissés sur le carreau.
Non, la tectonique, je connais pas assez bien.
Il y a des victimes.
Yael est encore là, hein.
C'est vrai. Ouais, mais alors elle a pas la carrière qu'elle aurait dû, alors que c'était une pionnière, quoi, tu vois. Elle a pas la carrière c'est qu'elle aurait
dû. Elle a quand même un public extrêmement fidèle et
putain,
qui
je confonds Yael et la meuf qui fait Garcon avec la Cédille.
Ah non, c'est Coxie. Ah oui, non, rien à voir. Non, Yael a une vraie belle carrière. Coxie, ça a été très, ouais, très éphémère.
Aux États-Unis, Yael marche très, très bien aussi. Hein.
Ouais, Yael a une carrière internationale beaucoup plus grande.
Mais elle fait du rétro, du coup.
Mais non, mais elle s'est emparée justement de la musique électronique avant qu'il y ait vraiment un truc, tu vois, ce retour et le truc cool. Je pense évidemment à toute la scène d'e-trap alternatif, oui. TTC et compagnie, ouais, qui ont été dans les sons électroniques à fond et qui n'étaient pas en fait dans le bon cycle, pas sur le bon moment.
Alors quand même.
Non. Enfin, ils ont pas connu le destin et leur rapport à la musique électronique a été plus critiqué en disant est-ce que c'est vraiment du rap? La question qui ne se pose plus
ça
aujourd'hui.
C'est ce qu'on disait à Lyon, mais pas à Paris.
Non, c'est une réalité.
Il me semble que si, il y avait quand même une grosse critique de TTC. Ouais, si. Parce que c'est l'époque où.
Même des mecs comme James Delec, etc., tu vois, globalement, on interrogeait cette forme en disant c'est quand même pas tout à fait du rap.
Mais non, parce que à l'époque de TTC. Il y avait déjà le 113 qui faisait Prince de la Ville. T'avais,
ouais, mais
t'avais
mais il véhiculait pas les mêmes choses aussi.
Ah oui, non,
pas
alors, que après, le son, après c'est un autre sujet.
Ouais, mais c'est un ensemble de trucs. Enfin bon, en tout cas, je pense même qu'en termes de son, vraiment, et notamment de son électronique, il y a un truc où il s'était là un tout petit peu trop tôt, tu vois, ouais. Et que cette accélération a participé à. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, David.
Bah moi, je pense qu'ils étaient au bon moment pour faire ce qu'ils voulaient faire, parce que oui. Eux, ils faisaient référence à des scènes qui étaient très actuelles, quoi. Ils étaient vraiment à l'heure américaine sur certains endroits, quoi. Ils faisaient de la ghetto house quand c'était le moment de faire de la ghetto house, quoi. Donc ils étaient vraiment à l'heure, mais je pense que la différence avec aujourd'hui, c'est que le rap qui vend beaucoup aujourd'hui, il est stratosphérique et dans des ordres de grandeur, je pense, très différents des années 2000 ou quand il y avait TTC, et que du coup le rap qui vend moins, c'est quand même, ça reste du rap qui vend quand même un petit peu et qui remplit des salles, quoi, et qui permet de faire des grosses tournées. Alors TTC faisait des grosses tournées aussi, hein, ouais. on va pas dire ils allaient à l'étranger, etc. Mais je pense que aujourd'hui un rappeur, ou pour revenir à ton sujet, que t'arrêtes quelqu'un dans la rue, il le connaît pas, il peut quand même mobiliser une communauté s'il gère bien sa communication, s'il arrive à être très fort sur les réseaux, s'il a sa niche en fait où c'est le meilleur, bah il peut s'en sortir, parce que aussi le gâteau est beaucoup plus gros qu'avant, ou en tout cas c'est la sensation que j'ai aussi.
Eh ben alors parlons-en, ça. On peut faire le lien direct. Daz, tu peux commencer parce que c'est un sujet que tu voulais aborder. Et j'aimerais bien entendre Lolita aussi, parce que là on va parler beaucoup de pop et je suis sûr qu'elle a des trucs à apporter là-dessus.
Non, mais moi mon sujet c'était sur. On parle beaucoup avec l'émergence des réseaux sociaux d'un point de vue sociétal des bulles de filtre, c'est qui te renforcent.
C'est quoi en fait, les bulles de filtre, ouais.
Les bulles de filtre, en fait, c'est le fait que les algorithmes qui gèrent les plateformes de réseaux sociaux, que ça soit Facebook initialement, mais aussi Twitter, Instagram, TikTok, puis même ce qu'on avait avant, MySpace, etc. C'était des choses qui te confortent dans tes propres opinions et tes propres croyances. Et c'est très lié aussi à ce qu'on appelle aujourd'hui la post-vérité, c'est-à-dire que désormais, en fait, les faits n'importent pas. Ce qui compte, c'est que tu trouves des sources qui te confortent dans ce que tu penses de l'état du monde, même s'ils racontent n'importe quoi. Cette information me plaît, donc elle est vraie.
Est-ce que ça vient d'une espèce de truc d'efficacité? C'est-à-dire que on sait que t'as déjà regardé des trucs comme ça, alors la plateforme te redonne à fond ce que
bien
t'aimes
sûr,
pour
c'est
que tu restes.
Oui, c'est de l'algorithmie bête et méchante, mais en fait, initialement, c'était un calcul simplement capitaliste de dire il faut de la rétention sur nos plateformes, il faut que les gens restent. Comment est-ce que tu fais que quelqu'un reste quelque part? Bah, il faut qu'il s'y sente bien. Comment est-ce que tu fais pour que la personne se sente bien? Bah, tu lui donnes ce qu'il veut. Et donc, en fait, t'observes ce qu'il regarde. Et puis, tu fais en sorte de toujours lui servir la même chose.
Et ça, tu le vois dans la musique.
Et en fait, moi, je le vois dans la musique parce que, du coup, je suis quelqu'un, comme je le disais en off, et les gens qui me connaissent savent que je suis sur Internet en tant que producteur de contenu depuis 2002, 2003. Tu vois, donc je suis sur Internet tous les jours. Vraiment. J'ai une hygiène par rapport à ça. Je fais en sorte de me tenir informé de ce qui bouge, justement pour pas avoir le réflexe de c'était mieux avant, machin, qui est quelque chose, particulièrement quand on a des acquaintances avec le milieu hip-hop, quelque chose, c'est presque un geste réflexe, tu vois, de dire ah oui, c'était mieux dans les années 90. Spoiler, c'est pas vrai. Et en fait, moi, j'ai une hygiène qui fait que j'observe et j'essaie de m'intéresser à un maximum de trucs. Le problème, c'est que, enfin, le problème, à une époque, les prescripteurs de contenu à suivre, bah, c'était la télé, c'était la radio, c'était les magazines, justement. Ensuite, c'est devenu les blogs. Après, les plateformes de partage de contenu type MySpace, SoundCloud, etc. Et en gros, à un moment donné, tu pouvais te tenir informé de ce qui se passait dans l'état du monde assez simplement en ayant dans tes signets différents sites qui te permettaient d'avoir un peu une vue d'ensemble. Là, en fait, aujourd'hui, tout s'est accéléré et c'est un truc de fou furieux. C'est-à-dire que moi, tu parlais d'Addison Rae, je ne sais même pas qui est cette personne. Je suis à la 102e épisode d'une émission musicale. Je ne connais pas cette personne qui est écoutée par des dizaines de millions de personnes à travers le monde. C'est la même chose avec Taylor Swift. Je suis incapable. Je sais qui est Taylor Swift. J'arrive à la situer. Le souvenir que moi j'ai de Taylor Swift, c'est quand Kanye West l'arrête en 2006 pour lui dire que ok, elle a gagné, mais franchement le clip de Beyoncé il était mieux, tu vois. Pour moi c'est ça Taylor Swift. C'est-à-dire que j'ai beau
même Shake It Off, tu l'as pas.
Non, parce que et tu vois c'est même pas une volonté genre de rester dans ma tanière. C'est juste que ces trucs là, je suis tellement dans une bulle qui est filtrante que ces trucs là n'arrivent pas jusqu'à moi. Et en fait, comme j'écoute pas la radio spécialement, comme je regarde pas la télé spécialement, je suis sur Internet. Je vais beaucoup sur plein de trucs sur Internet, mais je ne suis pas en fait exposé à ces sphères qui parlent de ça. Et en fait, j'ai des lacunes, mais gigantesques. J'ai des angles morts d'à peu près 300 degrés, tu vois, sur la musique. Ouais, mais c'est la pop.
Mais justement, c'est ça, et j'aimerais bien t'entendre Lolita là-dessus. C'est ce que je trouve intéressant. Moi, déjà, ça m'a parlé quand tu m'as dit ça, parce que moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que je pourrais citer aussi, je sais pas, une Sabrina Carpenter, des choses comme ça. En fait, je sais que c'est des pop stars.
Tu connais la personne, mais moi, je suis incapable de chantonner. Tu vois, l'air d'un morceau de Taylor Swift, j'en ai aucun qui me vient en tête naturellement, tu vois.
Et il y a un truc quand même générationnel, puisqu'on a le sentiment, alors sans remonter à l'époque hégémonique de la radio, des majors, etc., où t'avais des Michael Jackson, des Prince, voilà, des figures omnipotentes qui étaient absolument dans tous les médias, qui étaient en plus moins nombreux, il n'y avait pas Internet, etc. Mm-hmm. Là, tu comprends. Mais même si on remonte un tout petit peu, je sais pas, une Beyoncé, par exemple, globalement, je pense que même tu demandes à une grand-mère, j'exagère peut-être, mais elle arrivera à peu près à identifier Beyoncé. Ouais. Mais les nouvelles grandes stars de la pop, j'ai l'impression qu'il n'y a pas exactement...
Parce que c'est tôt encore, tu vois, une Sabrina Carpenter, c'est beaucoup trop tôt en effet pour que ça soit arrivé jusqu'à nos grands-mères. Mais je pense que vu la lancée sur laquelle elle y arrivera à un certain moment. Je pense qu'il y a plusieurs choses dans ce que vous avez dit. D'abord, il y a le fait que la pop, même si on a tendance à l'oublier, en tout cas moi je peux avoir tendance à l'oublier parce que j'en écoute énormément, c'est un genre par essence très anglophone. Et en France, ça a jamais véritablement percé. Parce que nous, la France, on est vraiment un pays de tradition de chansons et de textes et de variétés. Et je dis pas que le texte est pas important dans la pop, mais que c'est pour ça, par exemple, que le rap, aujourd'hui, c'est notre genre hégémonique. Parce qu'il y a un rapport au texte beaucoup plus important. Là où les Beatles... leur héritière aujourd'hui qui est Taylor Swift, même si Taylor Swift a fait numéro 1 quand elle sort son album The Life of a Showgirl ou les précédents, c'est vrai que ça touche pas tout le monde encore, et ça je le vois.
Tu parles de temporalité, il faut lui laisser le temps. Taylor Swift elle est là depuis longtemps,
si au moins depuis 2006.
Taylor Swift elle est là depuis longtemps, mais elle a la particularité d'avoir beaucoup changé de genre.
En quelle année à peu près? Tu disais 2006?
Non, 2006 déjà elle était récompensée. Ah ouais.
Tu saurais dire à peu près depuis quand on parle à peu près Taylor Swift?
Vous parlez à une énorme Swiftie. Ah.
Super.
Taylor Swift c'est on va dire les 3-4 premiers albums, donc jusqu'en 2012 c'est de la country. Avec un peu de rock parce que c'est la mode à la fin.
T'étais déjà Swiftie à ce moment-là?
Non, j'étais pas déjà Swiftie. C'est ça qui est peut-être intéressant. Moi, j'arrive en 2014 avec l'album qu'on appelle 1999, qui est l'album pop par excellence, vraiment le moment où elle va s'affirmer en tant que pop star, et qui est d'ailleurs récompensée aux Grammy Awards, qui remporte le titre de meilleur album de l'année, bon, face à To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar, donc ouais. Choix assez controversé de la part de la Recording Academy. Et après, elle continue, puis elle va surfer sur les genres musicaux en vogue. Reputation, qui sort en 2016, si je dis pas de bêtises, 2017. On va avoir des sonorités un peu reggaeton, c'est produit par Max Martin. Et puis il y a le confinement, elle part dans la folk, donc rien à voir. Et là, elle revient petit à petit dans la pop, mais une pop un peu très nostalgique, très... basé sur tes synthétiseurs années 80, parce que maintenant son producteur attitré c'est Jack Antonoff, donc c'est quelqu'un qui adore les synthétiseurs. Donc je pense que c'est pour ça aussi, c'est que comme oui, elle a beaucoup changé,
elle s'est réinventée, ouais.
Exactement, donc elle nous est pas parvenue en France comme d'autres, comme des Beyoncé peut-être. Mmh. Et
le
ouais.
fait que ça soit de la country de base aussi, qui est pas un genre où en France on se jette dessus non plus, quoi.
Exactement.
Ça a fait que au départ on nous a dit ah c'est une artiste country, et donc tu prends pas peut-être le besoin de te dire je vais m'intéresser à ce qu'elle fait, de la même manière que tu vas pas t'intéresser à Shania Twain, tu vois, ou ouais, à Morgan Wallen fait, aujourd'hui, tu vois.
En fait, ce qui est intéressant dans ce truc là c'est que il y a plein de choses que je me suis pris dans la gueule sans chercher à les prendre, juste en étant tu sais exposé en fait, juste vraiment c'est tu sais le soleil qui brille et t'as pas de t-shirt, tu vois, tu bronzes en fait naturellement.
Est-ce que c'est pas tes propres manières de consommer la musique qui ont changé?
Bah, j'ai jamais, enfin, je viens du hip-hop, donc déjà de base on a toujours été en mode bras croisés, hey, la radio c'est des vendus, nous un vrai artiste ils vend rien, tu vois, super, bref. Donc déjà de base il y a forcément un biais, tu vois, mais il n'empêche que juste en entendant, tu rentres dans un magasin en fait, t'entends la bande son qui passe, d'ailleurs shout out la bande son des magasins Auchan à Maison Alfort, elle est épouvantable, c'est vraiment horrible, non mais vraiment j'ai envie de me foutre en l'air, c'est rare, tu vois, quand tu te dis j'ai vraiment envie de me buter, c'est-à-dire que...
Et tu chasames pas par curiosité pour voir ce que c'est?
Non, parce que j'ai peur que ce truc là tu vois, et c'est ça aussi qui est important dans l'époque à laquelle
que
on
que tu le réécoutes et que tu l'aimes.
Non, 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 pas, ça pourrait arriver, non, mais j'ai peur que du coup ça influence quelque part mon algorithme, et qu'après je me retrouve avec de la curation nulle, tu vois. Mais en fait, t'es quand même exposé. Alors effectivement, à une époque, t'avais l'autoradio, tu vois. T'étais dans une voiture, t'avais la radio. Mmh. Quand tu faisais un trajet, généralement, t'avais ta pochette de CD. Et bon, au bout d'un moment, t'en avais marre et tu te mettais à écouter la radio parce que flemme, tu vois, de faire le DJ. Maintenant, en fait, dans ta radio, t'as une connexion avec ton téléphone. T'as 800 millions de gigas de musique. Tu peux faire des playlists. Enfin, moi, j'ai une playlist que j'écoute qui fait 537 heures. C'est complètement con, tu vois. Ça n'a aucun sens. Et en fait, j'ai pas particulièrement l'impression d'avoir, tu sais, acté un changement dans la façon de, genre, de me couper d'un truc. En disant, non, c'est terminé. J'écoute plus jamais la radio. J'écoute plus jamais les playlists du Auchan de Maison Alfort. Tu vois. Genre, t'es obligé de les prendre. Et en fait, il y a quand même plein d'artistes. Tous les artistes que vous avez cités en fait en pop, où j'étais en mode waouh, j'ai 3000 ans, c'est un truc de fou.
Après, il y a un truc intéressant, parce que moi je réfléchis moi-même effectivement à ce truc. Tu vois, là je regardais un peu ceux qui écoutent Addison Rae, qu'est-ce qu'ils écoutent, et tu vois, je vois quelques. Je pense, il y a Chappell Roan par exemple, qui effectivement aussi est une star de la pop plutôt récente. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Je vois Madison Beer par exemple.
Moi j'ai l'impression que ça, c'est des prénoms que tu génères sur, tu sais, avec un truc aléatoire.
En fait, en mode, là, en fait, tu touches un truc de génération aussi, ouais. C'est ça, que elles sont très jeunes.
Parce qu'à l'inverse, c'est vrai que pour aller à l'encontre de ce qu'on dit, je pense à une Dua Lipa par exemple, j'ai l'impression qu'elle a réussi quand même à imposer son nom auprès de plein de générations.
Parfait.
Tu vois,
Dua Lipa, ouais. Je suis incapable de citer un morceau. Je sais qui c'est.
Ah ouais?
Je sais qui c'est, je connais pas les titres en fait, ouais, parce que j'ai pas l'occasion de. Tu vois, je suis pas exposé à ça et c'est ça en fait, c'est j'ai la figure.
Est-ce que t'écoutes beaucoup de genres musicaux différents?
Ben en fait, en partant du hip-hop.
Non mais
attends, ce qui est intéressant, c'est que on le dit, tu vois, mon truc fondateur effectivement c'est le hip-hop, mais après à force d'en écouter, tu t'intéresses à ce qui a été samplé, t'intéresses, tu vois, donc en fait tu te retrouves à écouter un milliard de trucs en fait qui sont généralement plutôt des trucs qui ont été samplés, donc qui existaient avant. Mais comme aujourd'hui la pop est fortement matinée de sonorités hip-hop, en vrai, moi, je suis toujours, tu sais, c'est comme avec le streetwear, en fait. Tu vois, t'as des gens qui vont dire, ah, t'es à la mode. Bah, non, frère, en fait, je me suis toujours habillé comme ça. C'est juste qu'aujourd'hui, vous habillez comme ça, tu vois. Donc, en fait, effectivement, je suis plutôt teinté hip-hop. Mais j'ai écouté beaucoup de rock progressif, tu vois, de classique, de trucs comme ça. Je veux dire, j'ai une culture musicale, tu vois. Sauf que ce qui se passe depuis le confinement, vraiment, moi j'ai l'impression qu'il y a une accélération et qui est aussi concomitante avec les plateformes et la façon de produire. Parce que les plateformes, c'est il faut sortir, faut occuper le terrain comme tous les trucs internet. Donc en fait,
oui, on est sur une saturation du marché.
Voilà,
quoi,
il faut que tu sortes un nouveau titre tous les vendredis pour être featuré dans les playlists. Et en fait, ça a complètement changé aussi la façon d'aborder la création musicale, ce qui fait que là où avant tu pouvais te dire, bah, cet album-là, il a été taffé pendant 2 ans, on le release et c'est cet album-là qui va tourner pendant 2 ans. En fait, là, t'es en goutte à goutte de nouveautés permanentes. Et en fait, moi, j'arrive pas à trier. Tu vois, en fait, tout. C'est vraiment le spectre autistique, tu vois. C'est genre, tout est au même niveau, que ça soit le bruit de l'eau dans le tuyau ou les conversations des gens. J'arrive pas à faire la différence entre ce qui mérite l'attention versus ce qui est du bruit, tu vois.
Et c'est là peut-être qu'on a un défaut de... On est journaliste, moi c'est mon métier d'écouter ce qui sort, donc forcément je vais le faire. Mais c'est vrai que je me demande comment ça se passe quand tu n'es
pour
pas obligé de le faire tout le temps.
Parce que, ouais, David, on t'a pas entendu sur ce sujet. Et d'ailleurs, je fais encore un parallèle. Est-ce que c'est qu'une question de temps, parce que c'est un peu ce qui ressort quand même. Effectivement, un Justin Bieber, par exemple, a réussi à s'imposer, je pense à peu près. Tu vois.
Ouais. Lui, je peux chanter des trucs.
Ariana Grande, je sais pas. Est-ce qu'on est dans un entre-deux? Ouais.
Ça va bien, Ariana. Oui.
Et là, on parle quand même d'artistes qui sont là depuis quasiment 10-15 ans, tu vois. Et est-ce qu'il y a pas Taylor Swift, c'est aussi le cas, et pourtant c'est pas tout à fait pareil. Bon, est-ce que toi tu fais, est-ce que c'est qu'une question de temps, il y a un truc de ça, tu...
Non, je dirais pas que ça. Alors il y a un truc déjà sur je trouve que ce que ça cause, c'est que ça devient très difficile d'évaluer quelle est la base de fans réels d'un artiste. Je pense aux bookers par exemple qui doivent remplir des salles et qui se disent bon ok, ce gars-là il fait des millions de streams sur Spotify, mais est-ce que si je le ramène dans une salle à Paris, il va ramener 200 personnes, 300 personnes,
400 par an? Concert annulé, merci.
Compliqué,
merci
de savoir
tout.
Quoi en fait. Je pense que dans ce dont on a parlé, il y a la question de la monoculture. Je pense qu'arrive un peu dans le fond qui a un discours qui revient beaucoup en fait en ce moment, d'une potentielle fin de ce qu'on pourrait appeler la monoculture. Quand on parle de monoculture, c'est des objets culturels dont tout le monde est au courant. Donc typiquement, genre les Beatles, des trucs comme ça, ou même plus récemment, des choses comme Game of Thrones. Mais je pense qu'il y a deux biais dedans. Le premier étant que, en fait, la monoculture, ça en efface d'autres, quelque part. Ça a tendance à simplifier des époques. On va dire les Beatles, c'est les années 60, et en fait, la musique... Essentiellement, les années 60, c'est les années du rock anglais et tout, etc. Mais il y a plein d'autres choses qui se passent derrière. Et finalement, quand tu regardes et si tu vivais une vie de quelqu'un dans les années 60, elle serait beaucoup plus complexe que quelqu'un qui écoute ce qu'on en garde aujourd'hui. Ouais. Je pense que le rétroviseur, en fait, il a tendance à fausser notre manière de voir les époques et de les essentialiser. Et du coup, de se dire, c'est bizarre que mon époque, elle soit pas aussi essentielle. Enfin, qu'il n'y ait pas un son définitif des années 2010 et des années 2020. Parce qu'on les traverse et que c'est plus complexe quand on les traverse. Et je pense que dans l'autre biais, c'est, enfin, je sais pas si c'est un biais ou je sais pas quoi, mais c'est qu'on est conscient des niches qu'on connaît pas. En fait, via Spotify, via les phénomènes de fans qui arrivent et qui te disent en fait ce truc-là est énorme, on est vraiment conscient du fait qu'on est à la ramasse sur d'autres choses. En fait, dans les années 90, bon, tu t'intéresses aux choses que tu vois, t'as la télé, etc. Mais en fait, tu sais pas que potentiellement il y a un phénomène immense en Afrique du Sud à ce moment-là qui est super important. Mais aujourd'hui, tu le sais. Et il y a des gens autour de toi qui peuvent en être fans aussi parce que eux aussi ils ont accès à cette info-là, ils peuvent l'investir. Et donc, du coup, on a ce sentiment d'être à la ramasse, mais qui finalement, je sais pas en fait si ça change tant que ça par rapport à cette époque-là. C'est juste qu'on en est plus conscient finalement, quoi. Voilà.
Ouais, mais d'un autre côté, tu te dis Taylor Swift, j'ai pas regardé le nombre de streams, mais bon, c'est.
Alors, c'est d'être absolument monstrueux.
Tu vois, en fait, c'est un truc il y a la posture de je veux pas savoir.
Juste sur Spotify, c'est 100 millions d'auditeurs mensuels. Juste sur Spotify.
Voilà, juste sur Spotify. On va dire que c'est la même chose sur les trois plateformes principales, Apple Music, Deezer et Spotify.
Certainement moins, parce qu'à l'international, un Deezer, c'est pas grand-chose.
Ouais, ok.
Bon,
en tout cas, on est à 200 millions.
Tu rajoutes YouTube, par exemple, ça grimpe énormément.
C'est l'artiste la plus streamée, je crois, au monde.
Voilà, donc ça veut dire que là, on est sur à peu près la population de l'Union Européenne qui écoute Taylor Swift, tu vois. Donc c'est pas... Et encore une fois, il n'y a pas, de ma part, de volonté de m'isoler de ce truc-là. C'est juste que ça n'arrive pas jusqu'à moi. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas où le tuyau est coupé, à quel endroit, tu vois.
C'est ça je pense que comme t'as dit que tu venais du hip-hop, c'est une grosse explication. Parce que c'est vrai que pour le coup, entre la carrière de Taylor Swift et le hip-hop, très peu de vases communicants. Si ce n'est un feat avec Future.
Bah, et Bad Blood.
Et Bad Blood avec Kendrick Lamar, voilà. Ouais. Mais parce que c'est à la mode de faire des feats avec des rappeurs.
Oui. Mais il y a aussi, je pense que Taylor Swift, c'est vraiment un Pokémon à part. Hein. C'est quelque chose qui fonctionne pas du tout de la même manière que les autres pop stars. Par exemple, si tu regardes son dernier album, il se vend extrêmement bien en vente physique. Elle arrive en fait à faire. Elle a une communauté de fans extrêmement dévouée. Et en fait, je pense dans Taylor Swift, je pense qu'il y a la rejouabilité de ces morceaux aussi qui rentre vraiment en compte comparativement à d'autres artistes où en fait tu vas les écouter, tu vas être exposé à leur musique, mais c'est pas nécessairement des artistes que leur auditoire va réécouter constamment leur musique. C'est plutôt que c'est des machines tellement immenses, c'est des paquebots, ils sont imbriqués dans tous les éléments de notre société, ils sont dans les playlists des restaurants où tu vas, des supermarchés, etc. Que naturellement, c'est des trucs immenses, genre Billie Eilish, etc. Bon, Billie Eilish a beaucoup de fans, mais il y a des trucs comme ça où c'est naturellement immense. Et après, t'as des artistes qui arrivent à vraiment mobiliser leur communauté de fans et qui, du coup, sont immenses de fait parce qu'ils mobilisent beaucoup de gens, mais en fait, le reste du public a peut-être l'impression que leur taille, enfin, qu'il y a un problème d'échelle vis-à-vis à l'importance que ça a dans ta vie, tu vois, où tu te dis, je comprends pas pourquoi c'est aussi gros. Mais parce que, justement, je pense que Taylor Swift, elle a des gens qui la soutiennent énormément.
Tu vois. Est-ce que c'est pas un problème de perception de ce que c'est, par exemple, que 1 million de streams, tu vois. Ou en fait, à un moment donné, t'as des artistes qui conjurent, 150 millions d'écoutes, et tu te dis, ça doit être ce que tu disais tout à l'heure avec les bookers, tu vois. Genre, ça doit être colossal, tu vois. Mais en fait, c'est quoi 100 millions de streams à l'heure d'Internet, à l'heure de. C'est quoi le. En fait.
Peut-être que, effectivement, c'est une forme de biais que j'avais quand je citais Chapel Rowan, Addison Rae, etc., qui en fait paraissent déjà énormes, alors qu'en fait, elles sont là depuis pas si longtemps, fondamentalement, et qu'il faut justement peut-être leur laisser le temps de s'installer complètement. Mais c'est juste qu'il y a des moyens tellement démesurés, déjà industriels, autour aussi, quand même, de ces artistes, tu vois, il faut le dire, ça joue quand même. Plus, effectivement, la capacité, grâce à Internet, de toucher très vite un public énorme. On a le sentiment dire, attends, au vu du statut qu'elle semble avoir, tout le monde devrait déjà les connaître, alors qu'en fait...
J'ai l'impression que par rapport à ce truc-là, tu sais, c'est comme les gens qui ont connu le franc avant l'euro, et tu sais, qui aujourd'hui encore, en 2025, font encore la conversion, tu sais, genre, putain, ça coûte 16 euros, wow, ça fait 110 francs, mais c'est colossal, tu vois. En fait, je me dis, moi, quand je vois un truc et que je vois 50 millions ou 60 millions de streams, je me dis... Chaque Français a entendu ce morceau, tu vois. Alors qu'en fait, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que, tu vois, ça, en fait, ça veut plus rien dire. Ces chiffres-là ne veulent plus rien dire. Et quand t'essaies en fait de les plaquer sur du réel, c'est là où tu te prends tu peux être surpris par.
Puis pour moi, il y a des chiffres qui comptent peut-être plus que d'autres. En effet, tu parlais de pop stars comme Chapel Rowan et. Qu'est-ce que c'est Chapel Rowan en France? En fait, Chapel Rowan, c'est tête d'affiche du Festival Rock en Seine en 2024. Et là, tout de suite, je trouve que ça te donne beaucoup plus de clés pour comprendre. Donc, ça veut dire quoi? Je pense que si Chapel Rowan revient en France, je pense que c'est un Accor Arena, par exemple.
Ce qui est énorme.
Les salles de concert, déjà, moi, ça m'aide beaucoup plus à visualiser la popularité d'un artiste. Taylor Swift, on en parlait, les ventes des albums, pour moi, ce qui est très, très, très parlant ces dernières semaines, c'est qu'elle a vendu 4 millions d'albums en une semaine. Et donc, elle a battu le record d'Adèle, qui était à 3,6 millions d'albums vendus en première semaine.
Donc, vraiment physique ?
Physique, ouais. Alors, je crois qu'elle est à 3,5 millions en vente physique et genre 4 millions si tu couples avec le stream. D'accord. Et ça, moi, ça me parle beaucoup plus aussi parce que c'est un record qui bougeait pas dans l'industrie depuis 10 ans. Hein, le 25 de Adèle, il sort en 2015 et qu'il y a eu beaucoup d'articles qui sont sortis sur ça y est, c'est fini, les 1 million de ventes en première semaine, c'est fini, ça n'existe plus. Donc que Taylor Swift arrive encore à le faire et qu'elle augmente à chaque fois, à chaque nouvelle sortie d'album, pour moi, ça me parle plus qu'en effet le nombre d'auditeurs par mois.
Intéressant.
Parce qu'il y a un truc à prendre en compte, c'est que à l'époque où, comme à chaque fois, c'est des chiffres de vente qui servent à mesurer la popularité d'un artiste, et que on fait des équivalents stream, mais que du coup, moi qui par exemple n'ai strictement rien à foutre d'un artiste, je vais quand même l'écouter, et du coup, mon écoute va rentrer dans ses stats. Avant, quand t'achetais un album, c'était un geste pas militant, mais en tout cas conscient. C'est j'y allais et je veux cet album et je l'achète. Et du coup, cette vente-là, elle avait une valeur. Mmh. Un stream aujourd'hui, je te dis, on écoute des trucs sans.
Ce qui explique d'ailleurs que parfois, régulièrement, on pointe du doigt un artiste en disant putain, il a fait un chiffre en physique hyper important et tu sais, ça a de la valeur. Mmh. On dit effectivement, c'est pas le même acte. Quand quelqu'un vend bien en physique, c'est que vraiment, il est bien installé, qu'il a une fanbase qui remplira justement les salles, etc. Quoi.
Mmh. En fait, je sais pas, il devrait peut-être, dans ce cas-là, y avoir un moyen d'isoler, en fait, les écoutes des vrais gens qui sont engagés avec l'artiste. Versus ceux qui mettent juste un fond sonore.
En tout cas, physique numérique, on peut le faire. Pour le reste, je sais pas.
Ce qui est drôle avec Taylor Swift, c'est que dans sa fanbase, on dit souvent que ses haters font son succès parce que elle a développé. Donc dernièrement, elle a développé cette technique où elle ne sort aucun pré-single avant l'album. Elle ne sort rien. Et en fait, vraiment, le moment où l'album sort, tout le monde va l'écouter. Mais que tu la détestes ou que tu l'adores en fait, parce que tout le monde va avoir un avis sur cet album qui va sortir, qui va être quoi qu'il arrive l'album pop le plus commenté de l'année. Et sais plus pourquoi j'ai dit ça, j'ai oublié, j'ai perdu le film.
Que les haters rentrent finalement.
Oui, et que du coup, tous ceux qui vont écouter cet album, non pas en tant que fans, mais parce qu'ils veulent savoir ou qu'ils veulent démonter cet album, vont l'écouter.
Ça fait une écoute,
Aussi je me dis que cette métrique là en fait, le fait qu'on y ait tous accès, on y colle beaucoup de fois, en fait on y pose beaucoup de fois, alors que je pense qu'il y a des dans les métadatas de Spotify, il y a d'autres métriques qui sont peut-être plus intéressantes pour comprendre le succès de Spotify. Mais en fait, depuis qu'on y a accès et que c'est très visible, c'est devenu limite un argument de popularité, dont on va dire ah regardez tel rappeur, il a fait un super démarrage et tout, etc. Mais c'est des fans qui s'expriment comme des DA de label.
Ouais, c'est ça.
Pour dire regarde en équivalent vente ce qu'il a fait par rapport à ton rappeur, etc. Et je pense qu'on place beaucoup d'importance à ces chiffres-là, alors que il y a beaucoup de choses qui nous échappent en réalité. Il y a des écoutes sur une plateforme, il y a plein d'écoutes qui sont pas comptabilisées, tout ce qui se passe sur TikTok n'est pas comptabilisé là-dedans. En fait, il y a d'autres canaux qui existent, et en fait, le fait de se baser uniquement sur les chiffres du stream, parce que c'est finalement devenu un peu notre maître étalon, je pense que ça fausse. Et il y a vraiment des artistes qui, à mon avis, échappent complètement à ça, qui vont avoir une trend complètement en dehors de ça. Il y a des scènes entières de la musique qui existent en dehors de Spotify. Enfin, je pense que c'est aussi,
c'est illusoire du coup, comme c'est un peu l'arbre qui masque la forêt, quoi. C'est
En fait,
t'en as une autre encore d'expression.
je trouvé.
C'est l'habit qui ne
fait pas le moine. C'est la couverture.
L'utilisation des plateformes, elle est liée à l'âge aussi. Enfin, moi qui regarde beaucoup le top 50 Spotify où c'est essentiellement du rap, en fait c'est très jeune les gens.
Top 50 France à ce moment-là.
Oui, pardon.
Oui.
C'est ce que ça, enfin, je peux pas regarder ce top là et me dire tous les Français, toutes les Françaises écoutent ça. Pas du tout. Et, par exemple, quelqu'un comme Mylène Farmer, qui est une des plus grosses vendeuses françaises, elle fera jamais du top Spotify et elle apparaît jamais dans les top streams. Mais parce que les gens qui achètent sa musique n'écoutent pas la musique sur Spotify.
Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est toujours intéressant quand tu regardes la consommation avec plein de guillemets, mais de musique en fonction des tranches d'âge. On voit en fait que plus t'es jeune, plus tu consacres dans ta semaine un nombre d'heures important à l'écoute de musique. C'est pas forcément lié à ton investissement, ton rapport à l'artiste. Mais par contre, c'est vrai qu'en pur chiffre, en pur nombre d'heures de musique écoutée, effectivement, ça explose tout. Et donc, forcément, les artistes qui vont parler à ce public-là,
j'écoute du son tous les jours.
Non, mais ça, c'est statistique, c'est imparable. C'est juste, je te jure, c'est autour de 16, 18, 20 ans que tu écoutes vraiment des heures et des heures et des heures de musique, et ensuite ça s'amenuise avec le temps.
Ça date de quand, cette info?
Il y en a déjà 10 minutes.
Elle est régulière. Je peux te retrouver. C'est des chiffres du Snap, j'imagine. Okay. Tu peux les retrouver. Et régulièrement, tu vois vraiment la consommation est liée à la jeunesse, quand même, globalement. En particulier de la musique en numérique, évidemment.
Ouais. Après, je trouve que ça, c'est typiquement un sujet où les gens qui travaillent dans la musique sont très mauvais, parce qu'on a une écoute très différente, en fait, des personnes qui travaillent pas dans la musique. Et on va avoir des gens qui nous paraissent ultra connus, ou des phénomènes qui nous paraissent ultra connus. Et, en réalité, pas du tout, quoi. Et en fait, je pense que c'est là aussi où je te rejoins sur ce sujet de te dire, il y a des bulles, il y a des gens très connus, il y a des gens pas connus. En fait, quand tu travailles dans la musique, je pense que c'est très important aussi de temps en temps de sortir, de t'enlever de ce truc-là et de te dire, OK, concrètement, de qui est-ce qu'on parle? Et je pense que, là, il y a aussi la question de l'emballement médiatique autour d'une personnalité, tu vois. Genre, je pense à, par exemple, quelqu'un comme Théodora, par exemple, est inesquivable en France parce qu'il y a un emballement médiatique aussi autour, tu vois, parce que la musique est très bien, etc. Et elle, je pense qu'elle représente quelque chose de son époque. Mais c'est aussi tout ce qui se passe autour d'elle qui fait que si tu ne rentres pas dedans, en fait, tu loupes le train culturel et t'es à la ramasse et en fait, tu t'es dépassé et c'est bon, tu vois. Genre, ça veut dire que tu t'intéresses plus à la culture moderne. Et des artistes qui te demandent de ça, de si tu t'intéresses pas à eux, t'es largué, il y en a pas tant que ça.
Ouais,
en
c'est
fait, finalement,
des anomalies. C'est extrêmement rare.
Mmh. Ouais.
Ça me donne envie, à part si vous voulez encore dire un mot sur ce sujet, mais à glisser vers un autre sujet qui est celui de Lolita et qui d'ailleurs se rapporte complètement à cette discussion.
C'est fou les transitions qui sont toutes seules comme ça, j'adore.
Tu voulais parler des fans en
fait. Comme s'il y avait des journalistes autour de ça.
Oui, bah, je vais peut-être me répéter un peu, mais donc, quand tu me demandes de penser à des bouleversements musicaux, je retourne à 2020. Et moi, un truc qui m'avait marqué en 2020, c'était, on est sur la fin du premier mandat de Donald Trump aux États-Unis et donc les nouvelles élections présidentielles. Donc Donald Trump est en pleine campagne et il va faire un meeting à Tulsa, dans l'Oklahoma. Et il prépare ce meeting dans un stade de 20 000 places, donc ça doit pas être un stade, soit un peu plus petit. Et en fait, il y a un nombre de réservations absolument incroyable. Eux-mêmes, l'équipe de Trump, ils sont très heureux de l'annoncer. Je crois qu'ils disent qu'il y a plus de 1 million de personnes qui ont tenté de réserver des places. Énorme succès. Et en fait, ils arrivent et il y a, je crois, en fait, 6 000 participants. En fait, la moitié de la salle, même plus de la moitié de la salle est vide. Et en fait, ça, c'était une sorte de campagne lancée par des fans de K-pop qui ont réservé en masse des places du meeting avec absolument aucune intention d'y aller et qui après ont fait énormément de TikTok de elles en train de danser sur la Macarena devant leur place achetée et les photos vides du meeting.
J'ai jamais entendu parler de ça.
Si t'avais pas entendu parler de cette histoire, c'est génial.
Il va falloir que tu nous expliques comment des fans de K-pop en arrivent à vouloir boycotter, à prendre, tu vois, comme ça, à jouer un...
Ouais, alors peut-être que je vais te parler d'un autre, parce qu'au même moment on a Black Lives Matter.
Ouais.
Et aux États-Unis, il y a un projet d'application qui serait mis au service de la police pour filmer les manifestants. Et là encore, les fans de K-pop, en fait, floudent l'application avec des vidéos qu'on appelle des edits de leurs idols. Donc, des edits, c'est des courts montages vidéo d'une star, donc souvent dans la K-pop. Et donc l'application crash en fait parce que elle l'inonde de vidéos de K-pop et donc en fait on a plusieurs déjà sujets qui se dégagent. Moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est l'implication politique des fans. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur une notion qui est celle de la groupie et toutes les acceptions péjoratives qu'il y a autour de ce terme-là, très très sexiste. Et la groupie, c'est une fan qui suit mais sans vraiment savoir, qui va peut-être chercher une transaction sexuelle avec son idole,
qui vit à travers
son idole et qui en fait elle n'est pas porteuse d'une force créative, alors que c'est complètement faux et que les fans sont des forces créatives et donc politiques absolument formidables. Et pourquoi la K-pop? Je pense que les fans de K-pop sont des fans extrêmement jeunes. Sont souvent des fans racisés.
Ah ouais, ça c'est un truc qu'on observe.
Tout à fait, ouais. En France notamment, ouais, c'est vraiment... évidemment, c'est difficilement quantifiable en plus en France.
Avec une dimension socioculturelle aussi, même qui vient de certains territoires, etc.
Exactement, ouais. Beaucoup de banlieues parisiennes, ouais, pour les fans de K-pop. Moi, je l'avais remarqué en France aux dernières élections législatives, donc en juin 2024, où on a vu se cristalliser cette montée de l'extrême droite en France, peut-être comme on ne l'avait jamais vu auparavant, et qui était notamment liée, en partie évidemment, à l'extrême popularité d'une personnalité comme Jordan Bardella sur TikTok. Et en fait, la réponse à ça, sur Twitter, Instagram et TikTok, par les fans de pop, de K-pop, mais aussi de Beyoncé et de Taylor Swift, ça a été de faire des edits à nouveau, mais de personnalités politiques, pour les populariser. Donc, on a vu passer des édits de Sébastien Delogu, de Aymeric Caron, de Clémence Guettet, de toutes ces personnalités de gauche pour en fait soutenir l'initiative du Nouveau Front Populaire et pour, euh, pour faire face à l'extrême droite. Et oui, j'avais donc essayé de rassembler des témoignages à cette époque-là. C'était beaucoup de lycéens, de lycéennes ou d'étudiants, d'étudiantes et qui n'étaient même pas forcément particulièrement politisés, parce qu'en plus, pour la plupart, c'est des gens qui peuvent pas voter, mais qui sentaient qu'il se passait quelque chose en France et qui voulaient participer à leur manière. Et je trouvais ça absolument formidable.
Ils avaient reçu des instructions de...
Pas du tout. Non, c'est vraiment une initiative qui est venue de ces gens-là, de ces fans. Évidemment, c'est aussi beaucoup pour faire rire et beaucoup pour... parce qu'il y a eu un buzz à ce moment-là sur Twitter, enfin X aujourd'hui. Et donc, il y a aussi l'envie de le nourrir, l'envie d'y participer. Mais non, ça n'a pas du tout été une demande des partis politiques aux fans. C'est vraiment une initiative qui est venue des fans. Et d'ailleurs, les engagements politiques des fans, ça vient souvent d'eux-mêmes. Il y a une personne sur Twitter qui tient un compte fan de Taylor Swift qui s'appelle, je crois que son pseudo, c'est TS Swift News FR, qui en fait prend beaucoup la parole et qui a commencé à prendre la parole politiquement à ce moment-là pour dire la montée de l'extrême droite en France, c'est anormal, il faut la combattre, etc. Et c'est presque intéressant de voir qu'on commence à avoir plus de positionnement politique de la part des fans que de la part des personnalités de la musique.
Des artistes eux-mêmes.
Encore que Taylor Swift, il me semble que c'était quand même clairement mobilisée pour
elle a
Kamala
appelé
Harris,
à voter, Kamala Harris, c'est ça. Mais je sais que ses fans déplorent, par exemple, son absence de prise de parole sur la Palestine. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Elle a participé à un gala organisé par Rami Youssef aux États-Unis, mais c'est tout ce qu'on a pour l'instant.
David, après, tu pourras aussi t'exprimer sur ce sujet. Mais déjà, moi, ça m'amène à une question. J'ai bien compris, donc il y a une politisation croissante, si je comprends bien, des fans, notamment de grands mouvements internationaux comme la K-pop ou alors ce qui peut se passer autour de Taylor Swift, etc. Mais j'ai même envie de revenir à une espèce de base pour ceux qui ne connaissent pas trop. Ces fans, en fait, sont des gens nombreux, influents. Tu parles de force créatrice autour des fans. Enfin, c'est vraiment un truc notable dans le monde de la musique. Est-ce qu'il y a eu il y a toujours eu des fans, mais est-ce qu'il y a eu un changement de nature des fans, de leur manière de se mobiliser?
C'est les outils, je pense.
Ouais. Je pense que les réseaux sociaux ont beaucoup aidé, notamment les labels, à voir et à comprendre à quel point les fans pouvaient être des forces à prendre en compte dans le développement d'une stratégie marketing. Nombreux, c'est difficile à dire, mais oui, par exemple, tu as les gens qui tiennent des comptes sources, comme je disais avec Taylor Swift. Ça, il y en a énormément qui développent des comptes à part entière et ça devient presque en fait un job. Et qui en fait vont développer des compétences comme ça, c'est-à-dire que tu lances ton compte au début de ton adolescence, en fait, sur tes années collège et lycée, tu deviens aussi compétent qu'un social media manager de 10 ans de plus que toi ou de 20 ans de plus que toi.
Et si je dis pas de bêtises, il y a même des médias arabes qui sont nés comme ça en étant des pages fans initialement. C'est le cas de Raplume,
ouais. Par exemple. Fan de Nekfeu, je crois.
Waouh.
Oui,
ça m'a dit.
C'était un bon choix, ouais.
Ouais, je me rendais pas compte, tu vois, de cette force.
Et tu vois, c'est comme ce que je disais par rapport à Ableton. C'est les outils qui font...
Ça joue énormément.
En fait, tu réussis à canaliser l'obsession, parce que c'est vraiment de l'obsession quand les gens veulent... Comme à l'époque de Michael Jackson, avec les gens qui tombaient dans les pommes en concert et tout, qui voulaient absolument tout savoir de lui, H24, etc. Tu mélanges ce truc-là avec des outils de communication ultra modernes et qui permettent surtout de se mobiliser. Et après, avec... La notion de sous-culture internet avec une culture qui est presque cryptique, c'est-à-dire que si t'es pas dedans, tu comprends pas, ils s'échangent des trucs, la même culture, tous ces trucs-là, qui font que quelqu'un qui est un outsider, en fait, il va passer à côté, il va même pas voir le... C'est d'ailleurs la force de l'extrême droite d'être capable de faire du dog whistle avec des trucs qui semblent anodins alors qu'en fait c'est un appo à Rastos, tu vois.
Du dog whistle, c'est le fait de faire passer un message de manière plus ou moins subliminale, mais en fait on comprend quand
les gens qui savent, tu vois. Et en fait si tu mixes tout ce truc-là, effectivement c'est le côté ruche, tu vois, genre, mais vraiment esprit de ruche. Et d'ailleurs, je crois que c'est le nom des fans de Beyoncé,
les Beehives.
Les Beehives, ouais, voilà.
Ah, c'est marrant.
Ouais, tu vois, donc en fait, c'est ça, c'est genre, la fanbase devient une entité.
Et une force de travail aussi, comme
à part entière, tu vois.
Les fans de K-pop, par exemple, elles savent exactement comment faire remonter un article sur Google. C'est-à-dire que si elles veulent que ton article que t'as écrit sur leur artiste préféré remonte sur Google, fasse des clics, elles savent le faire. Et bah forcément, si toi, en tant que média, tu vois que ton article marche bien, bah tu vas être appelé à réécrire sur le même sujet.
Donc il y a vraiment, enfin c'est de la stratégie guérilla, quoi.
C'est
marrant, tu genres au féminin parce que c'est quand même un truc notable. Les fans qui s'investissent beaucoup sur Internet, il y a plus de femmes.
Je pense que vu que je travaille dans le domaine de la pop, c'est plus de femmes par essence. Les fans de K-pop, c'est plus de fans femmes. J'y arrive plus. ou des communautés queer aussi.
Okay. Les mecs cis assument moins d'être des groupies. En vrai. Déjà alors, pour du sport, mais ils diront pas qu'ils sont groupies. Tu vois, ils diront pas la même chose parce qu'il y a dans leur tête, il y a un rapport de domination qui va pas. Tu vois, qui les met dans une position pas avantageuse. Je pense qu'il y a un des trucs aussi qui est intéressant, c'est pour rejoindre ce que vous dites sur les outils et les communautés de fans, c'est que ça permet une coordination qui est vraiment folle comparativement à ce qu'aurait pu se passer dans les années 80-90 par exemple. C'est que les communautés de fans de K-pop peuvent se dire, ok, aujourd'hui on fait péter ce morceau, aujourd'hui on fait péter ce morceau et tout le monde va aller l'écouter tant de fois, etc. aujourd'hui pour pouvoir le faire grossir. Et il me semble me souvenir lire ça en fait d'une communauté de fans qui avait pour objectif de faire péter un morceau à la suite et qui monte chacun dans le...
Ouais. C'était pas One Direction ?
Ouais, il me semble que c'est ça. Et je pense qu'il y a un autre point qu'on sous-estime un peu quand on pense aux groupies, aux fans, etc. C'est à quel point, en fait, étant donné que ça arrive beaucoup à l'adolescence, c'est aussi un biais d'émancipation pour beaucoup de personnes et c'est un moment où ces personnes-là, donc je vais dire des femmes quand même, hein, vont quand même se lancer dans des entreprises assez immenses. Je pense, j'ai écouté un podcast qui s'appelle Groupie sur le sujet, que je vous recommande d'ailleurs. C'est Juliette Soudarin et
Kaïda à table rouge.
Exactement. Et il y a des témoignages donc de fans dedans et elle parle du fait que elles ont 15-16 ans et elles vont aller en Allemagne pour aller voir un concert. C'est quand même fou quand tu penses de faire ça quand t'as 15-16 ans, mais en fait via ce fait de la communauté, du fait que tu vas te retrouver avec d'autres personnes qui sont comme toi, qui vont un peu te mettre en zone amie, etc., c'est possible. Et donc je pense que la fan culture, c'est aussi un biais de construction en fait, c'est un endroit où tu vas te construire en tant que personne et apprendre aussi à t'émanciper. Donc c'est aussi pour ça que je pense que beaucoup de gens se retrouvent là-dedans.
C'est ça, moi quand j'avais travaillé sur les groupies et que je revenais un peu sur l'histoire du terme et que tu reviens aux Beatles ou à Elvis Presley, en fait, pour les femmes américaines, blanches, de classe moyenne, à ce moment-là, c'est aussi un moyen de... C'est l'éveil de leur désir, en fait, parce que ces filles-là ne sortent pas des quatre murs de leur chambre. Elles n'ont pas le droit, puis elles vont probablement vivre avec un mari plus tard, donc elles ne vont jamais vraiment être indépendantes financièrement. Et en fait, écouter les Beatles, écouter Elvis... À ce moment-là, pour elle, c'est un moyen de se libérer dans l'espace intime domestique qu'est la chambre d'ado, quoi.
Non, et puis en plus, on a eu des phases. Enfin, moi, j'ai dans ma famille assez proche, j'ai une de mes cousines notamment qui était présidente du fan club des Charts. Tu vois. Et
c'est quoi les Charts ?
Alors les Charts, c'était un groupe de variété, sauf qu'il y a le chanteur Charlie qui est sorti de ce groupe et qui s'est appelé Calogero et qui a eu une autre carrière, tu vois. Okay. Mais quand elle l'écoutait, c'était Charlie des Charts. Et en fait, genre, les mecs, ils allaient jouer au Mans et elle partait avec sa Clio 1, tu vois, même pas Clio 2, elle partait avec sa Clio au Mans, tu vois. Et elle les suivait, en fait, sur toutes les dates. Et c'était quelque chose qui, de mon point de vue à moi, c'était ouf, tu vois. Et ça, c'était avant les boys men. Parce qu'après, il y a une autre personne qui a beaucoup compté dans ma vie, qui était fan absolu des 3T, de M&A, de tous ces groupes-là, tu vois. Donc elle n'avait pas pris les Worlds Apart. Elle avait vraiment pris le côté un peu street, afro-américain du truc, tu vois. Mais pareil, ça allait faire le pied de grue parce que je sais pas... Alors, je sais même pas comment elles se coordonnaient entre elles, mais elles savaient dans quel hôtel les gens descendaient parce qu'il y avait des réseaux de bagagistes qui disaient « Oui, j'ai vu passer tel mec qui est le manager de tel groupe, donc il est dans tel hôtel. » Et en fait, les filles, donc toutes ados, autour de 14-15 ans, quoi, elles allaient se masser en bas des hôtels dans l'espoir d'apercevoir les gens et de s'échanger. Et chez moi, il y a un classeur avec toutes les coupures de presse de Podium, OK, machin, etc. Tu vois, et en fait, genre, elles allaient avec leur classeur s'échanger. Ah, t'avais lu ces trucs-là, t'as cette photo, machin, parce qu'il n'y avait pas Internet, tu vois. C'était... Et donc, je me disais, mais c'est déjà ouf que des gamines de 14-15 ans, genre en 95, tu vois, réussissent à avoir ce niveau d'organisation. Et donc après, tout ce que ça implique derrière, parce que du coup, tu mentais à tes parents quand tu disais que t'allais dormir chez Machine. En fait, t'allais pas du tout dormir chez Machine. Avec Machine, vous alliez attendre vos stars pour faire des photos avec des appareils jetables. Enfin, c'était un délire, tu vois.
Et démultiplié avec Internet.
Mais c'est un truc de ouf. En fait, j'imagine que elles étaient déjà vraiment à donf, alors que vraiment, là, t'avais les éléments qui était contre toi, si en plus de ça, t'as des moyens de te coordonner dans le confort de ta chambre, de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on fait, à quel moment, où on se retrouve, machin, etc. Mais laisse tomber, en fait, c'est obligé que...
Taylor Swift, c'est quelqu'un qui a vraiment compris ça et qui l'a utilisé, et c'est aussi une partie de son succès. Il y a un jeu entre Taylor Swift et ses fans qui est celui des Easter eggs, donc des, comme des indices qu'elle plante. Et en fait, dans tous ses discours médiatiques, dans sa musique, dans ses apparitions publiques, il y a toujours un indice qui te dit quand sortira la prochaine chanson ou de quoi parlera la prochaine chanson. Et ça, c'est un jeu...
C'est un jeu de piste, en fait.
Un jeu de piste continu qui dure sur des années. C'est-à-dire que, ça se trouve, il y a 3 ans, elle te donnait déjà des indices sur l'album qui va sortir l'année prochaine ou l'année d'après. Et ça,
ça,
elle, ça
c'est
très
un
malin
truc,
pour ça.
Genre, c'est... On sait si c'est elle... Ou si c'est sa team marketing qui est...
Un peu des deux, sans doute. Elle est ultra fan de numérologie. Elle le dit beaucoup en interview. Tu vois que c'est son plaisir de faire ça. Ses fans, ils l'appellent le Zodiac Killer. Et ils disent... et ils disent, on est chanceux qu'elle ait voulu faire de la musique et pas qu'elle soit partieuse en série. mais évidemment qu'il y a une équipe monumentale derrière et que ça doit être extrêmement bien coordonné. Mais oui, j'en ai pas qui me viennent en tête là. Tout de suite, si. Par exemple, clip d'un morceau qui s'appelle Bejeweled sur l'album Midnight qui doit sortir donc en 2022. Elle prend l'ascenseur dans ce clip, elle appuie sur l'étage 3. 3 étant le troisième album de Taylor Swift, c'est le moment où elle réenregistre ses anciens albums. Et donc, c'est le prochain réenregistrement qui va sortir.
Oh là là. Ouais. Ça, c'est vrai ou c'est juste une
oui,
coïncidence?
Oui, parce que c'est sorti après.
Donc, il y a une part quand même. À la fois, tu disais que les fans s'emparent d'eux-mêmes vraiment de ce travail, entre guillemets, après, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que c'est un travail du quotidien, quoi, d'être fan. Et en même temps, par contre, il y a aussi l'industrie, les artistes, les entourages qui sont aussi capables d'entretenir ça. Est-ce qu'on peut d'ailleurs, de manière aussi mathématique et maîtrisée, créer un culte autour d'un artiste et arriver à faire une fanbase? On est capable presque de générer une fanbase aujourd'hui où il y a quand même une part de magie, une rencontre qui peut se passer?
Je pense que c'est possible. Je pense là à une artiste, mais je me souviens plus de son nom, qui commence à poster des TikTok de elle qui fait des covers, enfin, comme n'importe quel artiste aujourd'hui voudrait percer dans la musique. Et elle lance un peu des challenges aux gens qui la suivent. Et elle dit quelqu'un commente. En fait, c'est ça. Quelqu'un commente et dit tu devrais faire un son en jouant avec l'alphabet. Et de là naît ce son qui est devenu un tube qui s'appelle A B C D E F U and Your Mom. Je crois que c'est Gail son nom. Je suis pas sûre.
Ouais.
Et le son devient un tube. C'est ultra viral. Et en fait, les gens se rendent compte après coup que la personne qui avait commenté en lui disant « Hey, tu devrais faire un son », en fait, elle est DA en label.
Industrie plante et on arrive à ce truc de cette fausse spontanéité qui est en fait un calcul parfois commercial aussi.
Exactement.
De certaines maisons.
Mais j'imagine que ça prend rarement, ça. Que c'est, enfin, par rapport à la force du truc un peu naturel.
En fait, j'avais un corollaire à ta question. Moi, ma question, c'est est-ce qu'on peut être une méga star de la pop sans avoir de communauté engagée avec des gens qui sont prêts à prendre une balle pour toi?
Non, je pense pas.
Bah, en fait, je pense aussi que l'aspect prévu par l'industrie, ça t'empêche pas de l'apprécier aussi.
Ouais,
tu vois, genre, il y a beaucoup de pop stars où on voit les fils.
Ouais.
Mais la pop, c'est un spectacle, en fait. Il y a quelque part, c'est pas très grave, en fait, que ça soit pas authentique. C'est la pop. Et enfin, l'authenticité aussi, c'est une question aussi, tu peux te poser de, est-ce que t'as vraiment envie d'avoir ça tout le temps dans la musique? Ou, en fait, il y a des moments où tu te dis, bah, j'ai envie qu'on me raconte des histoires, j'ai envie que ça soit fun et cool, etc. Donc, c'est pas si grave que ça, par moment, d'avoir les ficelles.
C'est un sujet qui est ressorti à un moment donné, la notion d'industrie plante, et même le terme, tu vois, de vraiment, genre, truc de, enfin, objet de l'industrie, factice, tu vois.
C'est ça.
Notamment, j'ai vu ces c'est ressorti quand
avec alors, Mickey.
Ouais, souvent ça cible des artistes féminines.
Avec déjà
avec
Mickey.
Ah oui, avec Mickey bien sûr. Ouais.
Ils s'enregistrent devant un Buffalo Grill et en fait, effectivement, ça pose 12 milliards de questions. On parlait d'appropriation culturelle, là on peut dire bandeur de banlieue, tu vois, parce qu'il y a rien de plus éclaté qu'une zone commerciale avec un restaurant Buffalo Grill pour faire ton truc. Donc ça a forcément trigger plein de gens de se dire mais qui cherche cette imagerie là à part des gens qui forcément ne la connaissent pas et trouvent ça glamour alors que c'est éclaté au sol, tu vois. Donc ça posait plein de questions aussi sur le rapport social entre les différentes classes et etc. Et il y avait effectivement ce truc de se dire bah en fait cette meuf là elle sort comme ça. Claque et ça marche, forcément il y a un truc, tu vois, y a forcément c'est un... parce qu'après il y a du complotisme aussi qui va derrière.
C'est, parce qu'on savait aussi qu'elle avait fait d'autres tentatives artistiques.
C'est ça, en fait les gens de l'industrie savaient qu'elle était là depuis plusieurs années et moi ses premiers morceaux je crois que je les écoute en 2021 et j'étais super fan à ce moment-là. Je pense aussi ça vient des gens qui ne savent pas comment l'industrie fonctionne. Et que évidemment qu'un artiste pour percer aujourd'hui, il a besoin d'une équipe. Et c'est génial si tu perces tout seul, mais après c'est pas sain. Il faut que tu sois entouré, il faut que t'aies des gens pour travailler pour toi.
Ouais, mais c'est le narratif en fait. Et ça c'est peut-être un reproche à formuler auprès des médias qui continuent à insister sur ce côté ça s'est fait tout seul, c'était naturel, il y a eu aucun calcul, c'était spontané. Et c'est la même chose qu'on observe dans le jeu vidéo où on continue à avoir de la part d'une certaine partie de l'industrie par exemple le narratif de ils étaient deux, ils ont fait leur jeu dans un garage, ils en ont vendu des milliards, tu vois. Alors que c'est faux. Ouais. C'était le cas avec Expédition 33 qui est un titre français, tu vois, où pareil, il y a eu cette histoire de ils étaient que 10, mais non, en fait, ils étaient 250, c'est juste qu'il y a eu beaucoup de contractuels qui sont venus en spot, mais tu fais pas un triple A avec 10 personnes, il faut arrêter de penser ça. Et c'est ce qu'on constate dans la musique. À chaque fois, il y a cette histoire de conte de fées. C'était une adolescente normale, et puis un jour, elle allume sa cam, et puis elle fait un truc, une reprise, et puis paf, ça explose. Et en fait, il y a aussi. Je suis d'accord pour dire, on aime bien voir les ficelles, on est au catch, ouais. Tu vois. Mais
je pense aussi que dans la critique de l'industrie plante, il y a pas que ça. Il y a la question du népotisme aussi, et il y a la question des rapports aussi entre une industrie où des gens ont beaucoup de moyens et d'autres n'ont pas de moyens, et du coup utiliser une esthétique qui te laisse penser que t'as pas de moyens. Tu vois, je pense que c'était plutôt ça qui était reproché que le
notamment pour Mickey, en tout cas,
notamment pour Mickey, tu vois, que le fait de bosser avec une industrie, parce que bon, on est conscient que ça existe, et donc ça, je pense que c'est des choses qui se mélangent aussi. Je pense que c'est pas juste l'aspect de l'industrie plante, parce que bon, au final, je pense que il y a les gens qui font ces critiques-là vont écouter plein de personnes qui sont des industries plantes et ça va pas tant les déranger que ça, tu vois. Je pense que, et il y a évidemment la misogynie aussi, pour Mickey.
Parce que, le narratif, effectivement, après peut être énervant, mais fondamentalement, ne pas comprendre qu'aucun artiste n'arrive avec une formule aboutie dès le début et le nombre d'artistes qui commence avec une formule, la retravaille, change de nom même parfois, etc. Change complètement la DA. Si c'est tous des industries plantes, il y a 80% d'artistes industries plantes, tu vois.
C'est ça. Puis l'accès à la culture en France reste quelque chose qui est très réservé à une élite, même si on a quand même beaucoup de projets et d'initiatives qui essaient de combattre ça. Et quoi qu'il arrive, je pense que peu importe les artistes qu'on écoute, peu importe le genre musical, il y a beaucoup d'artistes, comme la blague le veut, dont le nom des parents est en bleu sur Wikipédia.
Oui, clairement. Ouais, en fait, il y a ce truc-là, et je suis d'accord, mais d'un autre côté, on a aussi cette injonction à faire des choses carrées, même en tant que absolument nobody. C'est-à-dire que il y a des gens qui s'achètent des micros Shure à 350 balles, parce qu'ils ont l'impression que ça va... si t'as pas ce truc-là qui apparaît dans le cadre de ta vidéo verticale quand t'es en train de parler...
T'es pas pris au sérieux.
T'es pas pris au sérieux, tu vois. Donc en fait, il y a des gens qui ont acheté du matos de professionnels pour produire du contenu 100% amateur. Et qui, du coup, de fait, se disent n'importe quelle personne avec les moyens doit arriver avec la forme finale dès le départ. Parce que moi, je le fais, j'achète une GoPro, tu vois. C'est tous ces gens qui te vendent des trucs où tu te dis, j'achète un drone, je vais faire des images au drone. Ben, de quoi, en fait? De ton pavillon, tu vas te faire chier. Enfin, tu vas le faire deux fois et après, ton drone, il prend la poussière, tu vois. T'achètes une GoPro, puis tu te rends compte qu'en fait, t'es pas Kelly Slater, ça va être éclaté au sol et bon, tu l'arranges, tu vois. Mais il y a ce narratif dans le monde de la consommation,
c'est
aussi
facile.
Voilà, de te dire tu peux toi aussi arriver à un résultat professionnel avec des outils que tu peux acheter comme ça. Donc en fait, partant de là, en tant que consommateur, si toi tu te dis moi je fais les choses carrées, c'est-à-dire que normalement tout le monde doit faire les choses carrées.
Je pense qu'il y a un truc aussi, c'est que c'est très visible les premiers pas de quelqu'un maintenant. Tu vois, en fait, ouais, tu la partie pas aboutie, entre guillemets, tu peux vraiment la voir en live et voir la personne évoluer, etc. Et du coup, t'as pas ce phénomène que tu pouvais avoir de découvrir un phénomène qui est porté par une fanbase, un artiste qui est déjà, qui a déjà sorti un album, etc., qui est déjà, en fait, finalement, dans une forme très aboutie de sa musique. Là, tu vas voir les balbutiements, tu vas voir le premier single qui sort et les réactions. Et en fait, tu vas modeler ton avis vis-à-vis de comment c'est reçu, etc. Et donc, finalement, il y a cet aller-retour constant dans le développement d'un ou d'une artiste maintenant où moi je me rappelle dans les années 2000-2010 découvrais des gens, c'était leur premier disque et il y avait un gars qui me disait ah ça fait un an que j'écoute, c'est trop bien et tout, mais à part ça genre il y avait aucune empreinte en ligne, je pouvais pas trop savoir qui c'était, etc. Et du coup je me faisais mon avis à partir de la phase finale. Je pense que ça c'est pour la génération actuelle d'artistes, c'est très angoissant aussi de se dire que j'ai remarqué ça dans beaucoup, par exemple, d'une scène rap qui arrivait dans la fin des années 2010, début 2020, où ils étaient très soignés, très à cheval sur leur DA, comment les photos, tout ça et tout. Tout est ultra léché. En fait, on peut faire zéro reproche. Et en fait, du coup, on arrive parfois à un truc un petit peu aseptisé, très, très scolaire. Mais parce que aussi, il y a cette conscience de les images vont être vues, elles vont être analysées, elles vont circuler. On peut pas se permettre qu'il y ait une erreur par-ci, par-là, etc.
Ouais, mais tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans un monde comme le hip-hop, qui est justement très organique, et c'est beaucoup de collabs, de freestyle, d'open mic, de machin, forcément, il y a un mec avec un téléphone qui va te filmer comme à la baston d'Orly, tu vois. Je veux dire, ça fait partie du truc. Je me rappelle que quand PNL est sorti, en 2015, ils commencent leur truc, mais ils ont pas encore le méga buzz. Par contre, quand ils l'ont, tout le monde, évidemment, c'était la question industrie plante ou pas, il y a forcément une major derrière, c'est pas possible, machin. Et là, t'as un freestyle d'Ademo qui sort sur un toit avec Gizmo, et puis je me demande même s'il n'y avait pas l'homme pâle dans le truc, tu vois. Où le mec, il rappe pas du tout comme ce qu'il fait avec PNL, il a pas du tout le même style, il a pas le même flow, il a rien, en fait. Et c'était limite péjoratif. Tu vois, de voir regardez les mecs qui jouent les mystérieux, et en fait regarde,
il est tout nu quoi, quelque part.
C'est ça en fait. Et moi j'aimerais bien, alors le problème c'est que ces mecs là donnent pas d'interview, tu vois, mais j'aurais bien aimé savoir ce que lui a pensé de ce truc là. Tu vois, est-ce que du coup il y a une équipe qui s'est mise en place en mode il faut faire disparaître ce machin là, parce que quelque part ça vient entacher le roman qu'on essaie de tisser, justement, d'artistes qui sortent ex nihilo comme ça sans aucune
Je t'en prie.
Non, j'ai eu le cas récemment avec une rappeuse que j'ai interviewée pour Vogue, dont je vais taire le nom parce que pour elle, mais où c'était sa première interview et toute l'image est très léchée, la musique est super, moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et en faisant mes recherches je trouve qu'elle a été dans un groupe avant, mais c'est honnêtement j'ai pas beaucoup cherché pour trouver ça, c'était assez facile, et je lui en parle et on en parle pendant l'interview et je publie l'interview et là on me dit est-ce que tu peux enlever le nom du groupe, elle a un peu honte. Donc j'enlève le nom du groupe, mais je suis journaliste, donc je vais préciser que tu m'as demandé d'enlever le nom du groupe. Et donc on me renvoie des textos en mode...
C'est
mais,
encore pire, ça fait un effet stressant en fait.
Et je dis, mais en fait, ça m'agaçait ce truc d'avoir honte de ton passé, quoi. Puis c'est parce que oui, ok, les vidéos du groupe sont pas très léchées, mais c'est ta vie, c'est ton parcours.
C'est cool,
c'est la vérité, c'est cool.
Et surtout, comme le disait David, il y a une question aussi d'aller-retour, c'est-à-dire d'une proposition, quelle est sa réception, tu affines derrière ta formule par rapport à ça.
Ouais, au contraire, c'est tout bénéfique.
Et en plus, en fait, c'est sain de mettre ta musique en ligne même le plus tôt possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait que l'élan créatif, il doit être généré par ça. C'est-à-dire, vas-y, t'as fait un truc, même si c'est pas abouti, c'est pas grave, propose-le aux gens. Et puis, tu vois, tu vas avoir un retour. Et en fait, c'est sain.
En fait, je me dis que les jeunes artistes, notamment, doivent être matrixés à se dire qu'ils ont une injonction à la perfection, premier essai, tu sais, c'est-à-dire premier truc, tu dois faire un 36 Chambers, tu dois faire un Doggy Style, tu dois faire, tu vois, pour rester dans les métaphores musicales des années 90, mais tu vois, tu dois faire ton chef-d'œuvre. Et c'est ultra lourd à porter. Bien, je me dis, je sais même pas comment ils encaissent ça, les petits, tu vois, c'est chaud. En fait, d'avoir honte de ce que t'as été.
Tu veux réagir, parce qu'il faut qu'on passe vraiment au dernier sujet.
Ah pardon, excuse-moi, je dirais juste un dernier truc là-dessus. Ouais. En fait, c'est qu'il y a des artistes qui font complètement l'inverse. Je pense à des Américains genre Eric Snefew ou des gens comme ça qui sont des rappeurs. Ils sortent une quantité de morceaux astronomiques, ce n'est impossible de tout écouter. Et en fait, t'as plus la sensation que ils se sont dit, finalement, à l'ère des réseaux, je peux pas choisir quel morceau va fonctionner. Donc autant en faire genre 1000 Et c'est vous qui choisissez lesquels vous voulez faire péter, quoi.
Chris Crack qui fait donc, ça
qui,
aussi, ouais.
Donc, qui est complètement l'inverse, qui est plutôt un truc, hein, du rap, hein, en vrai. On va se dire de gens qui ont un studio à la maison et qui enregistrent. Et du coup, tout n'est pas super. Genre, il y a plein de trucs qui sont nuls. il écrit, non, mais je dis pas ça, en plus, parce que moi, je suis un fan du gars, mais genre, il écrit vraiment automatiquement et tout, etc. Et donc, il y a des élans de vraiment, c'est vraiment brillant. Mais on sent que c'est plutôt à nous de faire le tri qu'à lui. Qui fait son travail dans son album de OK, quelle place je vais.
Oui, il n'y a plus de curation en fait, c'est genre voilà le matériau brut, démerdez-vous avec
ça. Voilà. Donc je pense que l'époque, c'est aussi ces extrêmes-là, quoi. Genre des personnes comme la rappeuse dont tu parlais, qui va être très à cheval sur mon esthétique parce que tout va être analysé, il faut faire attention. Et d'autres qui sont un peu en mode bon.
On ouvre
le robinet, prenez tout.
Ce que j'imagine aussi, c'est que parfois il y a des peurs en fait d'entourage, etc., qui sont même pas celles forcément de l'artiste. Ça, j'en sais rien, mais tu vois, ou parfois en fait on s'en fait une montagne alors qu'en fait tout va bien se passer, quoi. J'imagine.
Bah l'effet stressant, il est ouf, quoi. Enfin, t'en viens à demander qu'on masque le nom du groupe dans lequel t'as participé, tu vas forcément créer une légende autour de ça, quoi. C'est...
On passe au tout dernier sujet. On va essayer de traiter rapidement parce qu'on commence déjà à être un peu à court de temps. Je vais peut-être l'anglais un peu plus d'ailleurs. En gros, l'idée, c'est un truc qu'on a évoqué à plusieurs moments. Je voulais qu'on parle de cette espèce de décentrement. Je sais pas si le terme est adapté, mais en gros de la musique qui globalement à l'échelle internationale est plutôt celle, la musique occidentale quand même, qui domine de manière générale. Et effectivement, on observe ces 10 dernières années des grands pôles en fait qui deviennent hyper forts. Alors la musique d'ailleurs a toujours été présente en fait, tu
destination
vois,
ailleurs non, la world music
puis il y avait des trucs comme ça, tu vois, à un moment il y avait une vague raï en France par exemple, tu vois,
ça a duré de 98 à 2001, ouais.
Voilà, tu vois, il y a eu quelques trucs comme ça, mais c'est pas la même chose exactement. J'ai le sentiment qu'il y a eu un changement. Pourquoi? Parce que déjà c'est les pays et les artistes eux-mêmes qui se sont emparés un peu du truc quand même. Alors évidemment je pense à la K-pop avec une production en Corée, je pense à l'Afrobeats avec la production au Niger, au Ghana, je pense évidemment aussi au reggaeton qui dans toute l'Amérique latine est très fort. Bon, est devenu ensuite tout ça, c'est devenu des phénomènes mondiaux qui à la fois influencent les artistes dans le monde entier. Donc ça c'est absolument indéniable. Je pense par exemple à...
Tu veux vraiment qu'on parle de ça en 5 minutes?
Ouais, non mais, okay, mais... justement je vais donner un angle. Là je contextualise et après on va voir pour avoir une discussion précise. Je pense, tu vois, par exemple, un mouvement comme l'Amapiano, qui, alors lui, en plus, n'a pas la même ampleur qu'un Burna Boy, tu vois, qui fait de l'Afrobeat. L'Amapiano, c'est un peu plus niche. Et pour autant, un truc très précis de l'Amapiano, qui est le log drum, tu sais, un son assez typique de basse, lui, on peut le retrouver dans plein de trucs, il influence un max d'artistes, etc. Ouais. Bref, tout ça, on le voit bien. Ma grande question, en fait, et j'aimerais avoir votre regard, c'est, d'une part, est-ce que ça bénéficie réellement aux tenants initiaux, à ceux qui sont à la base de ces mouvements dans les pays donnés, ou est-ce que tout de suite il y a quand même, est-ce qu'ils signent en fait avec des grands labels internationaux, puis en fait ce qu'on a ce décentrement, en fait il est peut-être un peu esthétique, mais dans les fondements économiques, culturels, etc. Est-ce qu'il y a réellement ce décentrement? Je m'interroge. On peut par exemple déjà commencer avec ça.
Tu veux ou?
Moi, je pense à Bad Bunny tout de suite, où je pense que pour le coup, c'est quelqu'un qui a politisé sa musique sur tous les aspects. Et quand tu demandes qui en bénéficie, moi, un des faits musicaux de cette année que j'ai trouvé parmi les plus forts, c'est le refus de Bad Bunny de tourner aux États-Unis pendant sa tournée mondiale, qu'il a ensuite expliqué auprès de ID Magazine dans une interview où il dit c'est pas. Ça vient pas d'une haine quelconque à l'égard des États-Unis, c'est juste qu'il dit il y a les services de douane qui peuvent se pointer à mes concerts et je veux pas mettre en danger mon public.
Donc, on précise donc Bad Bunny qui est peut-être la star,
la
vraiment,
star du reggaeton aujourd'hui.
Les portoricains,
tout à fait.
Ouais. Et donc oui, il a dit. Et j'ai même cru comprendre qu'il avait dit moi, y a mon public, il peut venir et se faire embarquer par la police.
Exactement, exactement. Et donc par rapport à ce que tu demandes, je trouve que c'est quelqu'un qui à la fois incarne ce décentrement, parce que là, avec son dernier album en date, il atteint des niveaux de notoriété que moi, je ne lui avais pas connu avant dans sa carrière. Même en France, je trouve que c'était resté jusqu'ici assez confidentiel, Bad Bunny, et que avec cet album, il transforme quelque chose. Il fait d'ailleurs un concert à la Défense Arena, je crois, en 2026, et un à Marseille, je pense qu'il fait deux.
Défense Arena, qui est la plus grande salle d'Europe, je crois.
La plus grande arène d'Europe, il me semble, tout à fait.
Hors stade, etc., évidemment. Mais ouais.
C'est 40 000 places de mémoire.
C'est monstrueux.
Et où est-ce que j'en étais?
Pardon,
je ne sais plus.
tu parlais du fait que c'était un cet album-là spécifiquement, c'était il y avait un changement peut-être de statut avec lui.
Exactement.
Quoi.
Et le fait que ce Bad Bunny-là soit choisi pour performer à la mi-temps du Super Bowl, je trouve ça impressionnant comme choix. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et ce qui est fou, c'est que ça a tout de suite soulevé quelques critiques.
Il y a un contre-Super Bowl, je crois.
Notamment à les gars. Enfin,
c'est incroyable de se dire que la NFL est considérée comme un organe progressiste.
Donc parce que c'est la NFL et le label de Jay-Z, Rock Nation et Apple Music. C'est trois entités.
On reproche quoi en fait? Parce que il a boycotté entre guillemets sa tournée américaine et par contre que le Super Bowl, le programme, on dit ah, vous êtes pas, enfin vous auriez dû le mettre de côté.
Exactement. Donc il
a
pas voulu tourner. Quelques critiques, mais qu'on peut vite. Auxquels on peut.
Maga, en fait, et vend debout contre ça, tu te rends compte.
Et surtout, les prix pour assister au Super Bowl sont tellement astronomiques que ce n'est pas le public de Bad Bunny qui va.
Oui, là,
assister
c'est pas,
au
ils vont
Super
pas se faire
Bowl.
Embarquer par le ice, tu vois.
Exactement.
Ce qu'on lui reproche aussi, c'est qu'il a fait du. Dans le morceau Yo Pereo Sola, le clip, il fait du cross-dressing, quoi. Il est en femme, et du coup, il y a beaucoup de, genre, il a des faux seins, etc. Il y a beaucoup d'images qui ont circulé dans les sphères maga de regarder le gars, qu'on fait, machin, enfin, c'est vraiment les woke, quoi, pour eux, quoi. Voilà. Qui arrive et c'est juste le fait qu'il est portoricain aussi, hein, qui lui est reproché, en réalité. Et qui parle que en espagnol aussi, et qui va, enfin, il va pas forcément parler en anglais aussi.
Alors ça, la langue, c'est intéressant. Parce que Lolita, toi, ton premier réflexe, ça a été de se dire, il a une force politique d'une certaine manière. Il est capable de dire, moi, en adéquation avec mes valeurs et avec la critique que je peux faire de l'Amérique, des États-Unis, je ne vais pas tourner. Donc pour toi, ça, c'est le symbole de quelque chose, de ce décentrement dont je parle, du fait que ça devient une force quand même.
Exactement.
Qui échappe un peu à l'Occident.
Exactement, qu'on n'a plus besoin du monde occidental pour vivre. Et pour se développer artistiquement. Et en effet, comme tu le disais, le fait que même quand il vient aux États-Unis faire sa promo, il parle en espagnol. Ça, encore une fois, c'est une démonstration de force inouïe, enfin qu'on n'avait vraiment jamais vu. Moi, j'avais jamais vu un artiste qui impose de parler en espagnol pendant ses interviews. Et j'ai pas de conclusion pour cette fois.
Bah, en fait, il y avait le symbole aussi que Drake s'était mis à rapper en espagnol quand il avait fait un featuring avec Bad Bunny. Donc c'était aussi le moment où on voyait cette inversion de pouvoir de finalement Drake, c'est un gars qu'on connaît parce qu'il va co-signer. En gros, il va commencer à faire des featuring avec des artistes qui montent et qu'il peut plus vraiment ignorer. Et donc le moment où il fait un featuring avec Bad Bunny et qu'il rappe en espagnol son complet sur Mia, c'est quand même un symbole de peut-être de changement de pouvoir. Ouais. Et pour faire un lien avec parce que pour la question plus globale de cette idée de décentralisation, Drake, il a aussi bossé, il a fait le morceau One Dance avec Wizkid, donc qui est un artiste qui vient de la scène afrobeats nigériane. Et la scène afrobeats, je pense que on peut parler aussi d'un pôle, hein, vraiment qui est immense et qui est mainstream, quoi. Mais c'est quelque chose qui se construit depuis, j'ai envie de dire carrément 60 ans, quoi, quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, faut se dire que tu vas prendre des artistes comme Fela Kuti dans les années 70. C'est des artistes qui sont hyper importants au Nigeria. C'est lui qui crée le mouvement Afrobeat. Mais il y a quand même ce rapport avec l'Occident qui est complexe de, bah, par exemple, où est-ce qu'on va presser les vinyles, tout simplement. Et en fait, le Nigeria, ça dépend, à ce moment-là, c'est encore, enfin, lui, il naît, c'est encore une colonie britannique. Donc, il y a le truc de l'industrie, elle est plus à Londres. Et donc, ça va prendre des années. Et au début des années 2000, va commencer à avoir des industries qui vont se construire directement au Nigeria. Et là, on va produire la musique là-bas. Et en fait, cette indépendance qu'on est en train de ressentir, elle se construit via des artistes comme ça qui vont dire, on va, de plus en plus s'émanciper des rapports qu'on a qui nous lient avec le passé colonial et l'Occident, quoi.
C'est plus de la géopolitique finalement, en fait c'est lié.
C'est complètement de la géopolitique.
Fluctuation géopolitique dans le monde, quoi.
Ouais, et je pense que c'est aussi quelque chose qui se joue avec les diasporas, beaucoup. Que ça soit un Bad Bunny ou l'Afrobeats, en fait, la puissance de la scène Afrobeats, c'est pas seulement le Nigeria et le Ghana, c'est aussi le lien avec les personnes qui sont des diasporas nigérianes et ghanéennes ou africaines, en réalité, hein, parce que l'Afrobeats, c'est un truc plutôt global, à Londres, à Paris, qui vont faire grossir ces scènes aussi...
Également dans les pays...
Exactement, ouais. Exactement. Et faire que bah, quand un Rema il va venir à Paris, il va remplir une salle immédiatement. Il va, ça va être une tête d'affiche. Quand Burna Boy il va aller à Londres, c'est un artiste immense. Et tout ça arrive aussi autour de la fin des années 2010 où encore une fois il y a les plateformes et du coup tu peux plus quand t'es coaché là booker Burna Boy et dire oui c'est un petit artiste africain. Non, t'as les chiffres en fait, tu vois que comparativement c'est équivalent à une tête d'affiche de Chine, voire il est plus haut que des têtes d'affiche occidentales et donc on est obligé de le mettre en haut de l'affiche.
Ouais, mais tu vois ça c'est un truc ce rapport à la valorisation de l'audience, c'est quelque chose qui a toujours existé. Je me rappelle qu'à une époque en Europe on a eu un push de Bollywood. Et le marché indien, c'est 1 milliard de personnes dans le même pays, tu vois. Donc en fait, n'importe quelle star de Bollywood, il bousille Brad Pitt. Et pourtant, cette masse-là,
je peux te dire que c'est quelque chose.
Bah, non, mais tu vois, cette masse-là de d'audience était pas considérée à une certaine époque dans les cercles occidentaux. C'est-à-dire que pour nous, Brad Pitt qui fait 200 millions d'entrées, ça sera toujours mieux que n'importe quel artiste indien qui fait 850 millions d'entrées, tu vois, parce que c'est quelque chose de loin. Alors, après, il y a la partie fétichisation du truc, tu vois. On a eu aussi une période où c'était bien aussi en Europe de s'intéresser comme ça aux ex-colonies.
Mais là, on est vraiment. T'as raison. J'évoquais aussi le rail au début, etc. Il y a eu quand même. Enfin, je pense qu'on est dans un phénomène.
Mais tu vois, le rail
différent.
Que t'évoquais, c'est exactement ce dont David parlait. C'est les diasporas, en fait, qui.
Ça joue, bien sûr. Ouais. Mais là, il y a eu quand même. J'ai l'impression. Déjà, il y a plusieurs pôles. Tu vois, concomitant, au même moment, il y a plusieurs pôles
qui sont tous, si tu le regardes, d'anciennes colonies occidentales qui prennent leur indépendance. Tu vois.
C'est vrai.
En fait, il y a peut-être un pays qui avait commencé ce truc-là un petit peu avant, avec un style bien à lui, qui est le Brésil, avec la MPB notamment, enfin tout ce qui est musique populaire brésilienne, et puis la bossa nova, etc. Tu vois, et où n'importe quel artiste brésilien qui passe en France, il remplit la salle. Moi, je suis allé voir Seu Jorge, je suis allé voir les Gilson, tout était rempli tout le temps, tu vois. Et en fait, c'est pour moi effectivement la décolonisation et le décentrement des rapports de force, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est très intéressant ce qu'on voit, parce que côté asiatique, on s'attendrait à ce que, enfin, le joueur majeur en Asie, c'est la Chine. Et pourtant, on parle de K-pop, on parlait de J-pop avant. Il n'y a pas de musique populaire chinoise qui vraiment storme le monde entier comme peut faire l'Afrobeat ou.
Alors, je dirais que la différence justement, et je pense que ce sera peut-être ça la prochaine étape en fait de d'émancipation, c'est que la Chine opère avec des plateformes différentes que les nôtres en fait finalement. Leur internet est très différent, ils ont des équivalents en fait pour la plupart
en fait,
des applications.
On n'est pas sur les mêmes
voilà.
Réseaux, quoi.
Et le fait qu'on soit pas sur les mêmes réseaux, ça fait qu'on ne voit même pas en fait les phénomènes chinois. Mais un des films qui a été le plus vu l'année dernière, c'est un film chinois qui est infiniment plus vu que n'importe quel film occidental, quoi. Et donc nous, on n'en a pas tant conscience. Et je pense que pour le moment, l'Afrobeats, les Bad Bunny, etc., ils sont obligés de travailler avec Spotify, qui est plutôt une entreprise donc européenne. Mais ils commencent à avoir suffisamment de poids pour pouvoir peut-être leur demander des choses aussi.
Alors c'est le fond de ma question. J'ai regardé par exemple pour Burna Boy, qui est une des plus. Alors, on a cité Bad Bunny pour le reggaeton. En l'occurrence pour l'Afrobeats, ce serait vraiment Burna Boy, je pense, l'une des plus grandes figures. Bon, tu regardes, il est chez Atlantic Records, qui appartient à Warner, donc une des majors. Alors il y a un autre label qui est cité, donc peut-être que c'est là leur label maison, j'en sais rien. Mais tu vois, est-ce qu'il faut encore dire attends, calmons-nous, derrière on retrouve souvent en fait des acteurs européens et qui vont donc en fait recevoir les bénéfices économiques notamment de cette musique, ou est-ce qu'à votre connaissance il y a si vous le savez, on n'est pas obligé d'en parler d'ailleurs si on maîtrise pas, mais une idée d'une organisation sur place, de structures sur place qui permettent ensuite un ruissellement pour réellement la musique locale
en fait,
quoi.
En fait, le point il est intéressant, mais en vrai justement avec les plateformes, tu n'as plus besoin de passer par un process industriel de construction et de fabrication de ta musique. Donc théoriquement.
Non, mais il y a quand même besoin du producteur potentiellement, en l'occurrence avec les majors par exemple.
Je pense que c'est un héritage, mais.
Ou alors ils se produisent eux-mêmes, mais en l'occurrence ils se produisent pas seulement lui-même. J'ai dit, il y a le deal avec Atlantic Records par exemple. Je sais pas si c'est un truc que vous connaissez ça ou pas du tout.
Bah, moi justement, je vois le processus opposé dans la K-pop où la K-pop, donc aujourd'hui, est dans une occidentalisation, je trouve, de ces artistes. Un des exemples qui est assez éclairant là-dessus, c'est les Blackpink. Donc le contrat de Blackpink arrive à son terme en 2023, comme de nombreux contrats d'artistes K-pop qui
durent 7 ans. Auprès de son producteur, auprès de son label ?
Auprès du label. Donc il y a eu une grande question de est-ce que Blackpink allait s'arrêter à ce moment-là. Finalement, Blackpink, le groupe, continue, mais les 4 membres de Blackpink ne renouvellent pas leur contrat à titre individuel. Et donc à ce moment-là, il y a plusieurs des membres de Blackpink, si ce n'est toutes, qui fondent leur propre label et qui passent des deals avec des labels occidentaux, des majors notamment.
À titre individuel du coup.
À titre individuel chacune. Et okay. Elles ont depuis chacune sorti un album et donc avec de plus en plus de langue anglaise d'ailleurs dans ces albums-là et des featuring avec des ouais. artistes américains et l'exemple le plus parlant c'est celui de Rosé qui signe à Pateux avec Bruno Mars et bon généralement quand tu signes avec un titre avec Bruno Mars tu sais que c'est le tube assuré immédiatement
de
ouais, des milliards de streams
ouais, donc en fait ça serait plus une stratégie dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est pas des artistes qui dépendent du système occidental pour exister, c'est juste qu'elles, elles décident pour exister en Occident et être visibles alors qu'elles peuvent avoir déjà une aura voilà. Elles décident ouais, de faire des accords de gré à gré avec, ouais. avec les tenants du marché de la ouais. musique en Europe ouais.
Bah, je pense que ce qu'il faut se dire aussi c'est que ce qui est commercialisé dans la musique c'est pas tant de la musique que finalement des audiences quoi. Enfin genre l'accès à une audience et que le phénomène d'émancipation de ces piliers là, c'est qu'en fait maintenant ils vont demander un péage pour avoir accès à telle audience et à l'inverse bah quand ils bossent avec avec la musique avec les occidentaux pour qu'il y ait de la distribution c'est un peu aussi une forme de péage pour dire je veux avoir accès au marché occidental. Mmh. Ma musique elle marche par là, elle marche très bien localement, mais si tu veux avoir tous les contacts pour pouvoir être diffusé en France, bah il faut que tu passes par tel major qui va lui te donner ça.
Et c'est-à-dire que ce truc-là existe encore parce qu'on n'arrête pas de parler de la baisse d'influence des maisons de disques, de l'industrie de la musique telle qu'on la concevait dans les années 80-90. Ça a tout changé, la crise du disque, les plateformes de streaming, etc. On se dit, bah, en fait, même le travail de DA, c'est plus les maisons de disques qui les font.
Non, mais les labels indépendants, ça reste quelque chose.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est avoir genre une tête de pont qui te force à aller dealer avec Sony Music pour pouvoir inonder un marché.
Pas surtout, mais il y a des trucs, tu vois, genre avoir accès à faire de la distrib physique, par exemple.
Ouais.
C'est un peu impossible. À moins d'avoir un contact dans les majors qui peut louer tous les camions qui vont les amener un disque à un tel jour à la Fnac quoi. C'est il y a des trucs où t'es un peu obligé de passer par eux. Et mais du coup les majors s'adaptent et vont te faire des trucs où tu peux signer avec eux sur telle chose, mais pas forcément là-dessus, pas forcément là-dessus, pas forcément là-dessus.
Mais spécifiquement sur les territoires aussi, on peut uniquement bosser. Ouais.
Voilà. Mais c'est pour ça que je pense que c'est quelque chose de graduel où ces piliers-là vont de plus en plus. En fait, c'est pas tant que ça va être des silos et qu'on va plus du tout se parler, mais que les relations vont complètement changer et que elles vont être de plus en plus. Enfin, il va peut-être avoir une forme de rééquilibrage. Sur quelque chose qui était complètement déséquilibré avant et vraiment très en faveur de l'Occident, quoi.
Et alors, pour mettre les pieds dans le plat, est-ce que tu penses justement qu'il y a vraiment un truc pérenne qui peut s'installer avec une diversité vraiment à l'échelle mondiale, ou est-ce qu'on est dans une espèce de vague exotique, si je puis dire, tu vois, de manière un peu provoque, et qui, notamment pour des raisons économiques, ne perdurera pas forcément?
Là, ça, je sais pas.
Bah, pour moi, en fait, le truc, c'est qu'on n'est pas dans une vague exotique dans la mesure où ça n'est pas que le public étranger à cette musique qui consomme. Il y a aussi beaucoup de locaux.
Absolument.
Bad Bunny est big en Amérique latine, en fait. Ouais. Et c'est pour moi le truc le plus, tu vois, pareil pour Burna Boy. Les Africains écoutent Burna Boy, en fait. Donc, à partir de là, bah, on devient, ouais. en fait, le public occidental devient un public.
Voilà, c'est ça.
Qu'il faut séduire, certes. Et c'est pour ça que pour moi, ça rejoint mais complètement les sujets de décolonisation. C'est la même chose en fait. On se décentre nous de notre rapport hégémonique et du soft power qui est ce qui fait suite à la Seconde Guerre mondiale pour en fait reprendre la place qui nous est due. En fait, il y a aucun monde où un bassin de population de 250 millions de personnes justifie d'être plus important en considération que 2 milliards de personnes en fait. Bah, voilà, c'est tout.
Ouais.
On revient à notre place.
C'est moins lié au sujet de la décolonisation parce que je vais parler d'une artiste espagnole, mais comme là elle va sortir son quatrième album Rosalia, je regardais le fait que Motomami, qui a été un album extrêmement important dans la pop, dans le reggaeton, dans beaucoup de genres musicaux pour son innovation, sa créativité. Motomami, donc il gagne le Latin Grammy du meilleur album de l'année. Mais il n'est pas nommé dans les catégories principales aux Grammy Awards. Mmh. Et ça a été extrêmement décrié à l'époque. Et donc là, j'ai hâte de voir si ce nouvel album de Rosalia va sortir de ça. Et aujourd'hui, l'album le plus cité en candidat idéal pour remporter l'album de l'année aux Grammy Awards, c'est Bad Bunny.
Ah, et je dis une bêtise.
D'où le Super Bowl.
tout est lié.
C'est au Grammy ou c'est dans une grande compétition comme ça américaine où ils avaient mis un truc presque spécifique pour l'Afrobeat? Je dis une bêtise ou il y a un truc, ça vous parle?
Non, c'est non, l'histoire de la musique.
Non. L'Afrobeat, oui, ils ont changé. En fait, ils avaient une catégorie qui était en gros essentiellement musique du monde, ouais. Et ils ont séparé en plusieurs marchés, okay, qui représentaient le marché africain, etc. Mais ça. En fait, quelque part, ces cérémonies-là peuvent pas tant suivre avec le tout ce, ouais, dont on parle, quoi, genre l'explosion des bulles et tout, etc.
Ça percute pas assez vite.
C'est compliqué, en fait, parce que, ouais, tu vois, genre, c'est Bad Bunny, ce serait compliqué de pas le mettre dans l'album de l'année, mais à une époque, il l'aurait mis dans musique du monde musique ou un truc comme ça, quoi.
Otobami, c'est 2022, donc t'imagines, oui, voilà, que c'est super récent. Si ça veut dire que ça a changé en 3 ans.
Ça
a changé. Ça veut dire qu'on prédit un peu ce qui sera au Grammy, on sait pas. Mais
Rosalia, la question que j'avais pour Rosalia, c'est. Après, peut-être. Non, je confonds avec Anita, je pense. C'est une chanteuse qui chante en espagnol, mais qui marche dans des pays qui sont pas forcément hispanophones, genre le Brésil ou des choses comme ça, tu vois. Donc,
je crois que c'est Anita, ça.
Ouais, ça, c'est Anita.
Anita,
ouais,
elle est brésilienne.
Ah oui, en l'occurrence, elle est brésilienne. Ok, je sais plus.
Il y avait un truc comme ça où c'était très très gros dans un pays qui n'était pas forcément le pays.
Qui parle la langue.
Ouais, mais qui, pour nous, de notre point de vue d'Européen qui comprend rien et qui fait pas la diff entre l'Argentine, le Brésil et tout, ouais, c'est la même chose.
Ah, d'accord. Genre qui parlait portugais mais, ouais, qui était big dans un pays hispanophone. Ouais. Bah, ça, je pense que c'est surtout les Américains que ça a choqué d'avoir des genre BTS qui marchent chez eux et que ça soit du coréen et qu'ils se disent mais comment ça se fait que. Enfin, il y avait vraiment un truc avant de l'anglais dominait énormément les charts. Enfin, il y avait très très peu de titres qui étaient pas en anglais qui perçaient aux États-Unis et c'est cette génération qui l'a changé. Les Bad Bunny, mais même le reggaeton avait déjà commencé dans les années 2000 à amorcer ce changement là, quoi. Ouais.
Bon. Je crois que. Alors, c'est un sujet qui aurait pu faire l'objet de 3 heures de discussion.
On fait les 4 autres ou pas?
Ouais, c'est parti.
Ouais, ça mériterait un épisode 2.
Parce que oui, on avait prévu 8 sujets initialement. Clairement, on en a fait 4. Mais je sentais le truc venir. On s'est dit, on en choisit un chacun. On voit si on a le temps pour la suite.
Quand on a vu la jersey.
Tu veux pas parler de médiévalisme?
Mais en vrai, en plus, ça m'aurait fait kiffer parce que je connaissais pas. Je te jure, j'avais même pas suivi.
Ça, j'ai halluciné de te faire découvrir le bardcore.
Tu connais, toi, le bardcore?
Ouais, j'en ai entendu parler. Mais moi, c'est parce que je traîne dans les cercles de JDR aussi. Donc.
J'avais même pas entendu parler de ça, le bardcore. Bref. Allez, on peut les citer juste les sujets que vous pensiez et comme ça, les gens peuvent aller regarder si ça les intéresse. Donc toi, c'était le bardcore.
Ouais, c'était surtout le médiévalisme en musique à partir de l'album de Okelou sorti cette année, donc Choking Off. Qui, avec Daniel Arles, a une passion vraiment pour l'esthétique médiévale. Et donc, voilà, ça aurait croisé la musique, la mode et l'art. Et aussi, on se serait demandé, mais pourquoi est-ce qu'on a un intérêt aussi présent actuellement pour le Moyen-Âge?
Ouais, vous avez loupé, hein, parce qu'on avait des takes.
Ah, vas-y, David tease aussi. On fait un épisode 2.
Ouais. Moi, c'était pour parler de l'influenceurisation de la critique musicale. Donc, le fait que, à la fois, les journalistes vont de plus en plus prendre les codes des influenceurs pour parler de musique ou pour les outils, hein, je pense à la vidéo verticale, le vlog, des choses comme ça, et à l'inverse le fait qu'il y a de plus en plus de logique d'influence en fait dans la en fait que les influenceurs prennent une place de plus en plus importante dans l'espace médiatique qui parle de musique, quoi. Et avec ça aussi parler du retour des blogs finalement et de plateformes comme Substack où on peut refaire du microblogging, mais que ça a changé par rapport à les années 2000 parce que il y a beaucoup plus de monétisation en fait maintenant. Voilà.
Daz, tu veux teaser aussi ton sujet?
Ouais, moi mon sujet, c'est je m'interrogeais sur le fait que désormais le rap fait la part belle aux mecs qui ont des carrières de grossistes en substances illicites. À une époque où c'était très mal considéré dans le rap de vendre de la dope. On parlait du shit et de la weed sans aucun problème, mais quand tu commençais à toucher à la coke, on te traitait de junkie en gros.
Ouais,
dans les années 90.
Même de vendre, tu pouvais pas.
Ah ouais.
Ah
non,
ouais, okay,
non, non, je touche pas à ça. Tu vois, les mecs, ils disaient, je touche pas à ça, c'est un poison, j'y touche pas, tu vois. Et en fait, ça va faire 10 ans que tous les mecs, il y a plus de grossistes en cocaïne, en héroïne en France que de consommateurs. Parce que tous les rappeurs qui pètent font l'apologie du trafic de drogue. Et là, effectivement, encore une fois, je parle pas du dealer de shit et du blues du Big Raver qu'on peut avoir avec PNL par exemple, mais vraiment de gens qui te font les SCH et tout, qui utilisent une
une esthétique très Tony Montana. Alors on pourrait parler aussi du fait que absolument personne, j'ai l'impression, dans le rap français n'a compris ce putain de film Scarface. Ouais. Parce que c'est justement ce qu'il ne faut pas faire, mais bon voilà.
Bah, ça finit mal, hein, c'est quand même assez clair. Hein.
Bah oui, mais bon, ça reste très romantisé dans et surtout très fondateur de pas mal d'artistes, y compris des artistes qui sont là depuis très longtemps et qui ont aussi pris ce virage-là. De grossistes à Medellin, tu vois, à Medellin. Et donc voilà, je voulais parler de pourquoi, comment et où est-ce qu'on va avec ça. C'est quoi la prochaine étape, tu vois?
Écoute, moi je voulais discuter du fait que, un peu comme dans l'autre monde capitaliste, un peu comme tous les types de consommation qu'on peut avoir, quand on veut se vêtir, quand on veut manger, etc., ben j'ai l'impression que l'écoute de musique, la consommation, pour dire un gros mot, liée à l'art de musique, et ben voilà, il y a une question éthique qui se pose de plus en plus, notamment évidemment avec les débats récents sur Spotify, mais de manière générale, on s'interroge sur la rémunération des artistes, etc., et comment, en tant que consommateur, on peut aussi avoir un impact sur cette industrie, et quelle est la meilleure manière de consommer de la musique aujourd'hui. Bon, voilà.
C'était une belle émission.
Ce sera pour un autre épisode. Lâchez-vous dans les commentaires si vous voulez absolument l'épisode 2. On fait revenir. Vous reviendriez, ça vous dirait.
Avec grand plaisir.
Ouais, avec plaisir, carrément.
Bon, bah, peut-être qu'on se fera ça alors. Normalement, il y a les recos, mais je propose qu'on les fasse sauter parce que l'épisode est déjà long. La prochaine fois qu'ils viennent, on essaie de faire de recos. Voilà, ouais, comme ça.
Ok. Eh bah, ben, la semaine prochaine alors.
Lolita, on te retrouve tes articles chez Vogue.
Tout à fait, en ligne sur Vogue.fr. En ce moment, bon, ce sera fini, mais là, je suis en pleine semaine de Art Basel, grande foire d'art contemporain. Donc là, je cours d'une expo à une autre. J'essaie de trouver qui seront les artistes de demain et d'analyser un peu les tendances du marché de l'art. Voilà.
Très bien. Tu vois, elle est compétente dans plein de domaines.
C'est incroyable.
En fait,
c'est incroyable. On a vraiment de la chance.
David.
Moi, ma prochaine actu, c'est la sortie de Audimat. Voilà. Donc, ce que j'ai dit sur le jersey, je le dis de manière infiniment plus précise. Et avec plus d'infos, mais dans un article qui sort dans le prochain numéro.
Avec moins de gens sympas autour.
Voilà, avec moins de gens sympas autour, malheureusement. Voilà. Et c'est écrit, donc faut sortir les lunettes.
Donc là, en fait, t'as spoil ton papier.
En vrai, il y a beaucoup plus de choses. J'ai pas spoil tant que ça. Genre, j'ai parlé de un quart des trucs que j'ai...
Ouais, et puis de toute façon, Audimat, ça vaut toujours le coup de l'acheter, en vrai.
Oui. Et il y a d'autres articles qui ont l'air vraiment merveilleux. Moi, ça m'a ouvert l'appétit.
C'est narco-futurisme.
Narco-futurisme.
Envie de lire narco-futurisme.
Voilà.
Je ne sais pas de quoi ça parle.
Et un article sur DJ Screw et un article sur les gens qui dansent de la house en Ile-de-France. Voilà.
Très bien.
Ok.
Bon, ça donne envie.
C'est appétissant.
Ouais. Big up, Guillaume Huguet et Étienne Menu.
Voilà. Absolument, on les salue.
Épisode, je sais plus combien, duré, je sais plus combien.
Oh, je sais plus, ouais. C'est celui avec Étienne, c'était quand? Bref, en tout cas, ceux qu'on salue aussi, c'est la bouclette qui
bien
fait
sûr.
La technique de cette émission. C'est Amiris Flav aujourd'hui. On salue François.
Mais évidemment, François qui va monter cette émission de 2 heures et qui donc va t'envoyer un message assassin pour te dire putain. Voilà.
Écoute, y a pas trop de morceaux de musique. C'est déjà, ça fait ça en moins à gérer. Merci François. Merci aussi à Thomas évidemment, grâce à qui on fait cette émission.
Le sang de l'Aven, je sais pas le dire en allemand.
Vous êtes DJ tous les deux. Est-ce que vous avez déjà acheté du matériel chez Thomas? Ou est-ce que vous faites de la musique aussi à côté?
Pas du tout. Je suis désolé. Ah ouais. Je suis désolé vraiment.
Vous produisez de la musique un peu ou pas trop?
Non. Moi, j'écris des articles, c'est déjà beaucoup.
C'est déjà
bien. Ouais. Moi, j'aime bien avoir le. Enfin.
Mais attendez, quand vous mixez bien avec du matériel?
Ouais, mais alors figure-toi qu'ils ont même pas Pioneer chez Thomann. Alors ça, c'est un truc
pas mal. Moi, j'ai pas de matos chez moi, en fait. Genre, je mixe seulement quand je mixe, quoi.
Ah ouais, t'as pas besoin de
t'entraînes pas?
T'as pas besoin de t'entraîner, de crafter un peu ton art?
Ça doit pas être un très bon DJ.
déjà, oui. Il y a ça. Et franchement, les CDJ maintenant, c'est du gâteau. Enfin.
Ah ouais?
Respect, mais les CDJ 2500, là, où t'as, enfin bref, c'est...
T'as plus grand chose à faire sur les derniers modèles.
Ah, c'est pas encore un nouveau débat. Est-ce que DJ, c'est encore un métier?
Non, en fait, c'est juste que j'ai envie de dire. Bon, bref.
On en parle après.
Non, parce que les DJ vont me tuer. C'est un métier de fou. Je dis pas ça, mais c'est que genre le métier il se place autre part. Mais bref.
Bon, et puis évidemment, merci à vous qui nous regardez, qui nous écoutez.
Merci de nous suivre dans ce podcast.
Oui.
De Monte le Son, qui est désormais le nom officiel.
Absolument. Et je précise, Daz, si ce n'est déjà fait pour cet épisode, dans la description, regardez, au moins ça sera, je pense, pour le prochain. On va vous mettre les recos. Enfin, une playlist avec toutes les recommandations depuis le début. Il y a plus de 200 morceaux. Voilà, et qu'on mettra à jour très régulièrement.
De toute façon, ça doit être trop les trois mêmes artistes qui reviennent en boucle, donc vous inquiétez pas.
Non, absolument pas. Non, c'est la DLT, monte le son, c'est la diversité, c'est l'éclectisme.
Ah, ça fait plaisir.
Bon, on se retrouve dans 15 jours. Ça sera forcément bien.
Ciao.